Avec votre permission, on va commencer. On va procéder au quart d'heure poids de vin. On est très heureux de recevoir ce soir une personnalité scientifique, Gilles Rammstein, directeur de recherche au CEA. Enfin, je ne vais pas dire toutes tes casquettes. Simplement, le titre de son laboratoire, hein, c'est, il en dit long, hein, puisqu'il y a le mot climat, il y a le mot environnement, et il y a un mot qui est important dans cette maison depuis 25 ans, c'est le mot paléo. Et la suite, alors paléo-environnement, paléo-climatologie, etc. Donc l'histoire a beaucoup, beaucoup d'importance dans le travail que l'Espace Mendès France a mené depuis de nombreuses années. Alors l'anecdote, c'est qu'un jour, je suis en voiture avec Michel Brunet du Collège de France, et il reçoit un coup de fil, et en voiture, il regarde sur son écran, il dit « Merde, c'est Gilles !» Gilles Rammstein, en l'occurrence. Et puis alors, le Gilles Rammstein en question, c'est lui. Et Michel Brunet lui devait une préface depuis un an, hein, je crois. Et Odile Jacob attendait tout ça. Donc Michel Brunet dit « Ouh là là, je suis en retard ». Et donc Gilles lui donne quelques éléments qui constituaient la ligne éditoriale d'un éditorial digne de ce nom. Et donc comme Michel Brunet était en train de conduire, j'ai donc fait le secrétariat de l'affaire. Et donc Michel a dû écrire ton éditorial à la suite des deux pages que j'ai écrites dans la voiture. Voilà, il avait un an de retard, hein, je crois, hein, c'est ça, ou pas loin. Hein. Ouais, voilà. Donc, et à la fin, mais pourquoi tu ne viendrais pas faire une conférence à l'Espace Mendès France, puisque en décembre prochain, il y a deux choses, c'est la COP21 et l'exposition climat que l'Espace Mendès France a produite. Alors, juste avant de laisser la parole à Gilles, je voulais simplement vous dire que l'affiche que vous voyez là, COP21, elle est dans une trentaine de pays différents, puisque l'Espace Mendès France diffuse son exposition qui est à l'étage, qui est d'accès gratuit, un peu partout dans le monde. Moi, une de mes fiertés, c'est que cette exposition est depuis quelques jours en très grand format dans les jardins du Sénat du Chili. Le Chili est pour moi un pays particulier pour plein de raisons, y compris politiques. Et le fait que mes amis chiliens aient dupliqué cette exposition dans les jardins du Sénat, ça a une valeur importante puisqu'il y a une dimension particulière, c'est l'Amérique du Sud, c'est le Chili, et puis c'est le Sénat. Et il passe entre 40 à 80 000 personnes par jour qui déambulent puisque le Sénat est placé sur un chemin particulier. Voilà. Donc l'Uruguay, le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, les États-Unis en Louisiane en l'occurrence, le Québec à Victoriaville et à Sherbrooke, Namur. Nous sommes également aux Philippines et en Malaisie, et bientôt l'exposition part en Corée et au Japon. Tout ça a été traduit dans les langues locales qui vont bien. Ce qui prouve que cette expo que nous avons fait de manière extrêmement, comment dire, roborative, comme on sait faire à Mendès France, un peu de culture scientifique, un peu de politologie, un peu de prospective, un peu d'histoire, a tapé juste dans la tête de plein d'enseignants et de chercheurs de ces pays. Et dernier point, ce qui est pour moi aussi important, c'est qu'elle est à Marrakech, et vous savez que la COP22 sera à Marrakech, et que cette exposition a été vue à Marrakech déjà depuis 3 mois par un peu plus de 40 000 personnes, et qu'elle sera dans plusieurs villes du Maroc en 2016, avant de revenir à Marrakech en décembre 2016 pour la COP22. Voilà, donc pour dire qu'effectivement, ce travail qu'on fait avec la communauté scientifique locale et nationale sur une façon de raconter la culture scientifique pour tous. On a rencontré nos publics. Et puis anecdotiquement, et j'en dirai pas plus, sachez que l'exposition que certains d'entre vous ont pu voir il y a quelques mois sur le cerveau et les addictions a été achetée par le Liban pour les universités. Et c'est assez terrible politiquement, de Syrie, d'Égypte, du Soudan et de Libye. Sauf que quand ils nous ont acheté ça il y a un an et demi, on ne savait pas qu'on serait en plein dans le cyclone politique et guerrier où nous sommes. Donc pour dire que la culture scientifique, elle est au cœur d'un certain nombre de préconisations et de préoccupations. Et puis, dernier point, avant de te passer la parole, Gilles, mais tu le sais, je te l'avais dit, nous avons signé un accord pour l'Amérique du Sud pour que l'Espace Mendès France devienne producteur d'expositions et d'outils d'animation d'éducation aux sciences pour l'Amérique du Sud, hispanophone. Et donc cet accord a été signé vendredi dernier. Et donc les produits que vous voyez ici depuis une dizaine d'années sont en train de trouver un écho dans la communauté éducative. Et je vous le rappelle, il n'y a pas de culture scientifique sans les scientifiques. Et c'est la raison pour laquelle on est toujours heureux d'avoir parmi nous des personnalités éminentes qui viennent nous dire des éléments de science qui viennent vous poser des questions autant que vous leur en posez. Voilà Gilles, comment je voulais présenter la chose. Donc moi je suis fier de t'avoir parmi nous ce soir. Pour moi, tu étais un nom qu'on voyait sur des couvertures de bouquins, qu'on entendait à la radio et qu'on voyait à la télé. Donc merci d'avoir accepté, dans ton emploi du temps difficile, d'être parmi nous. Merci Gilles.
Merci beaucoup Didier.
Vas-y.
Alors, donc moi ce soir, d'abord je suis très content d'être invité par l'espace Mendès France, très bien accueilli par Didier Moreau et ses collaborateurs, et aussi par Patrick Vignot qui est venu me chercher. Et je dois dire que, effectivement, comme Didier le disait, ça se fait un peu dans l'effervescence, entre deux tours des élections, pendant la COP21. Et c'est sans doute ça qui explique que Didier ait complètement oublié une chose très importante que je lui avais dite pourtant, qui était d'équiper la salle et les fauteuils de la salle de ceintures de sécurité. Alors pourquoi ? Parce que ce soir, et sans doute pour la seule fois de votre vie, vous allez assister à peu près 4 milliards d'années de climat en trois quarts d'heure. Alors, je vais vous présenter ça sous une forme de valse. Donc, il s'agit d'une valse à quatre temps. Alors, le premier temps de cette valse, c'est le temps du soleil. Et ça, c'est un temps qui, on a du mal à se l'imaginer, est à peu près du milliard d'années. Le deuxième temps de la valse, c'est le temps de la tectonique des plaques, qui, lui, prend plutôt 10 millions d'années. Et c'est le temps que les continents se déforment, que les bassins océaniques se déforment et qui déforment à leur tour le climat. Puis il y a un troisième temps de la valse, qui est le temps des paramètres orbitaux, qui est lié au fait que, eh bien, de façon à cause des planètes qui nous entourent, l'excentricité, l'obliquité, la précession, j'y reviendrai, de notre petite planète bouge avec des fréquences de 10 000 à 100 000 ans. Ça, c'est le troisième temps de la valse. Et puis il y a un quatrième temps de la valse, qui est un temps en plus, puisque vous savez tous que la valse a trois temps, normalement, la valse traditionnelle. Le quatrième temps de la valse, c'est le temps de l'homme. Donc, et ce temps-là, il est fulgurant, il n'est pas du milliard, il n'est pas de la dizaine de millions d'années, il n'est pas des centaines de milliers d'années, il est simplement de quelques siècles. L'homme est devenu un acteur prédominant du climat très très rapidement. Donc avant de vous emmener, sur Terre, je voudrais vous faire une petite promenade sur Mars. Alors Didier m'a dit qu'il y avait des micros dans la salle. Et donc, vous allez pouvoir répondre à des questions. Je ne poserai que des questions très dures, moyennant quoi l'espace Mendès France offre l'apéro, je pense, si vous avez la bonne réponse à ces questions. Alors, voici la première question rouge. Quelle est la grande différence si vous êtes un extraterrestre et que vous vous approchez de la Terre par rapport à si vous vous approchez de Mars? Qu'est-ce que vous verrez d'extrêmement différent? Vous n'êtes pas obligé de répondre, vous n'avez pas d'idée hein, non plus. Hein. Vous ne forcez pas. Mais... Allez, vas-y. Il n'y a pas d'eau. C'est une très bonne réponse, mais ce n'est pas la bonne réponse. Si vous êtes plus loin de Mars, plus loin, vous n'êtes pas vraiment au niveau où vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'eau. Comment ?
Ça marche tout
maintenant. Allez-y.
Il n'y
a pas d'atmosphère. Il y a une atmosphère de 6 hectopascales très ténue en CO2. Donc ce n'est pas ça non plus. Ah, je crois que l'espace Mendès France va s'en tirer pour un... Il n'y a pas d'eau ? Mais ça, c'est très fort! Il n'y a pas de lune! C'est exactement ça. Sur Mars, il n'y a que deux petits cailloux, il n'y a pas de lune. Vous voyez Mars, il n'y a pas de lune. Et quelle importance climatique ça a, qu'il y ait une lune? Eh bien, sur Terre, on a un gros satellite, hein, donc qui est la Lune. Et quel est l'impact de la Lune? Eh bien, ça a été démontré par un très grand physicien qui s'appelle Jacques Lascar, que l'obliquité de la planète Terre, c'est-à-dire l'axe que fait entre les pôles et le plan de l'écliptique où tourne la Terre, donc la Terre, elle a une obliquité, hein, et cette obliquité, à cause de la Lune, elle ne peut pas trop bouger sur Terre. Elle est fixée entre 22 et 24 degrés. Elle est dans une petite fenêtre étroite. Alors vous allez me dire, bon, très bien, et quel rapport avec le climat? Alors la première chose, c'est que vous savez comment on dit, ça, pas de papyro pour ça, hein, vous savez comment on dit inclinaison en grec? En grec, inclinaison, ça se dit climat. Donc le climat de la planète, les Grecs avaient bien compris, il est lié à l'inclinaison. Et bien sur Mars, à cause du fait que Mars n'a pas de lune, l'inclinaison bouge. Et elle bouge beaucoup. Et justement, Jacques Lascar a calculé, là, ce que vous voyez, c'est la variation de l'inclinaison sur Mars en fonction du temps passé. Et bien, sur Mars, l'inclinaison a beaucoup varié. Et du coup, ça a eu des effets que je vais vous montrer, qu'un autre physicien qui s'appelle Forger a montré avec un modèle de climat martien. c'est que si on tient compte de ces variations d'obliquité, on se rend compte que les calottes de glace sur Mars, elles suivent l'obliquité. C'est un peu comme si sur la Terre, les pôles et les calottes glaciaires se déplaçaient. Mais sur Terre, comme je vous l'ai dit, l'obliquité ne bouge quasiment pas, donc l'Antarctique est en Antarctique et le Groenland au Groenland, point barre. Mais sur Mars, ce n'est pas du tout le cas. Sur Mars, avec le temps, l'obliquité bouge, les pôles aussi et les calottes aussi. Et c'est pour ça qu'un soir d'été, si vous regardez Mars, et vous regardez Mars près des pôles, vous allez voir des roches striées, avec une bonne lunette. Hein. Et si vous voyez ces roches striées, beaucoup de gens disent « Ah, c'est la preuve qu'il y a de l'eau sur Mars, regardez, ça, c'est des figures d'érosion, pas du tout. » C'est parce que les calottes de glace se déplacent et les roches striées, ce sont juste des socles d'anciennes calottes de glace qui étaient là avant sur Mars. Donc vous voyez que sur Mars, le climat, les calottes de glace, tout ça, ce n'est pas du tout la même chose que sur Terre. Je voulais vous le dire avant qu'on commence vraiment à rentrer dans notre voyage. Alors la Terre. La Terre, c'est la seule planète qu'on connaît vraiment bien. On la connaît vraiment bien parce qu'on peut dire des choses sur son climat depuis presque 3,8 milliards d'années. On peut dire des choses sur le climat de la Terre et on peut dire des choses sur la vie sur Terre. Et on peut dire ça, c'est très important parce que, surtout pour le jeune garçon qui a trouvé tout de suite qu'il manquait une lune, on va découvrir des exoplanètes. Et on va vouloir savoir si sur ces exoplanètes, il y a de la vie. Donc évidemment, plus on va découvrir d'exoplanètes, plus on a de chance. Mais il y a une autre donnée qui est très importante, c'est la durée de la vie. Il n'y a qu'une seule planète sur laquelle on sait, c'est la nôtre. Et la durée de la vie, elle est de 4 milliards d'années. C'est-à-dire que sur Terre, il y a eu des graves crises, je vous en montrerai quelques-unes, des crises climatiques, mais il y a toujours eu de la vie pendant tous ces 4 milliards d'années. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la température à la surface du globe, la précipitation, le cycle hydrologique ont toujours été favorables à la vie. Alors, je vais vous expliquer maintenant les temps de la valse. Alors, le premier temps de la valse, c'est le temps du milliard d'années. C'est le temps du Soleil. Pourquoi le Soleil? Alors, toutes les planètes du système solaire tirent leur énergie du Soleil. Vous savez que le système solaire s'est mis en place il y a 4,6 milliards d'années. Très bien. Quand vous êtes le soir d'été avec votre copine et puis que vous regardez un coucher de soleil, en aucun cas vous allez lui raconter que ce que vous voyez là, c'est un réacteur nucléaire. C'est ça, le Soleil, c'est un réacteur nucléaire. Et c'est un réacteur nucléaire très classique, très ordinaire, des soleils comme le nôtre, il y en a plein. Et ce soleil-là, il était blême et blafard il y a 4,6 milliards d'années, beaucoup moins puissant à son origine qu'aujourd'hui. Alors, il se trouve que le Soleil, aussi compliqué qu'il paraisse, il a une évolution qui est relativement simple. Et en fait, ça, c'est l'évolution de la luminosité du Soleil. Et vous voyez que c'est une droite, juste une droite. Et le Soleil, sa luminosité, elle croît de 7% par milliard d'années. Ça veut dire qu'à chaque milliard d'années, il fait 7%, enfin, il y a 7% de plus de luminosité solaire. Si vous faites un calcul, un bas de calcul, il y a 4 milliards d'années à peu près, et ben le Soleil était 30% plus faible qu'aujourd'hui. Donc vous imaginez qu'au début, et ben il y avait 30% de moins d'énergie qui arrivait. Alors ça, si vous faites un tout petit calcul ou même un gros calcul, vous allez trouver très rapidement que voilà à quoi la Terre aurait dû ressembler. La Terre, elle aurait dû ressembler à une planète gelée, mais la Terre, en fait, n'a jamais, ou quasiment jamais, ressemblé à une planète gelée. Alors, il faut bien comprendre ce que je dis parce que ça va introduire une notion fondamentale que je pense que vous connaissez, mais pas du tout dans le contexte dans lequel je vais vous l'expliquer. Donc le Soleil jeune, il était 30% plus faible qu'aujourd'hui. À cause de ça, toute chose égale par ailleurs, la Terre aurait dû s'englacer. Mais on a les preuves que sur Terre, il a quasiment toujours fait chaud. Je vous montrerai tout à l'heure qu'il y a eu des accidents, mais il a toujours fait chaud. Donc là, il y a une deuxième question qui est quand même vachement facile pour gagner un apéro. C'est pourquoi la Terre était chaude et pas froide, alors qu'avec un soleil jeune, elle aurait dû s'englacer. Qu'est-ce qui fait que ça ne s'est pas fait comme ça? C'est facile. Alors là, quand je vais vous le dire, vous allez regretter. Hein.
Son atmosphère était différente.
Oui, mais c'est insuffisant comme réponse, oui. Vous vous chauffez.
Il y a plus de CO2.
Voilà. Il y avait deux grosses couvertures qui ont permis à la Terre, pendant ces 4 milliards d'années, de ne pas s'englacer. Alors ces deux grosses couvertures, on les connaît, hein, c'est les mêmes qu'aujourd'hui. C'est les mêmes gaz à effet de serre qui nous posent problème aujourd'hui, le CO2 et le méthane. Alors je vais vous expliquer pourquoi il y avait plus de CO2 et de méthane dans les premiers milliards d'années de la Terre. Et pourquoi, grâce à ça, ça nous a protégés? Alors, il y avait plus de CO2. Pourquoi? Dans l'atmosphère, aujourd'hui, qui est-ce qui met du CO2 dans l'atmosphère? Ça, c'est facile. Ben, c'est nous, c'est l'homme. C'est l'homme qui est en train de prendre le combustible fossile du tréfonds des sols et le brûler et l'envoyer dans l'atmosphère. Bon, ça, c'est facile. Mais à l'échelle géologique, qu'est-ce qui met du CO2 dans l'atmosphère? Ça, vous devez le savoir, c'est facile. C'est les volcans, c'est le volcanisme. Le volcanisme, c'est la source du CO2. Qu'est-ce qui est le puits du CO2? Alors ça, si vous trouvez, vous avez droit à un apéro, c'est dur. Qu'est-ce qui fait qu'il retire, au contraire, du CO2 de l'atmosphère pour le mettre dans l'océan, au fond des océans? Ouais, mais non. Non plus. Je suis pas sûr d'entendre la deuxième réponse. Le plancton, ça le fait, mais c'est...
Le corail?
Le corail non plus. En fait, ce qui est vraiment le gros truc, c'est très difficile, hein, mais si vous avez encore des idées, vous pouvez.
Juste la dissolution dans l'eau de mer?
Ouais, non. Ça joue, mais c'est pas ça le fait majeur. Le fait majeur, ce qui retire du CO2 de l'atmosphère et l'emmène au fond des océans, c'est l'érosion. Pourquoi? Parce que quand il pleut, les gouttes se chargent de CO2, elles viennent taper les roches continentales, elles dissolvent le carbone, et après, avec les rivières, elles vont le mettre au fond des océans. C'est ce qu'on appelle l'érosion silicatée. Donc, une source qui était beaucoup plus forte, le volcanisme, beaucoup plus forte quand la Terre était jeune et chaude, et un puits. Alors, le puits, il est lié au continent, à la position des continents. Est-ce que vous savez quand est-ce que les continents sont apparus? Le système solaire, c'est 4,6 milliards d'années, on l'a dit, mais les continents? 3 milliards d'années. Il y a 3 milliards d'années. C'est-à-dire que le premier 1,6 milliard d'années, la Terre, elle était une aquaplanète, c'est-à-dire une planète avec que du bleu. Quelques petits atolls volcaniques, mais globalement, que du bleu. Et donc, vous aurez compris, une source très forte et pas de puits. Il n'y avait pas de continent, il n'y avait pas d'érosion silicatée. Donc le CO2 pouvait rester dans l'atmosphère à des très, très fortes valeurs. Le méthane, maintenant. Le puits du méthane, vous savez ce que c'est sur Terre, le puits du méthane? Bon, c'est les rizières, c'est le pain des vaches, c'est ce genre de choses, le bétail. C'est tout ce qui est biologique, c'est biologique sur Terre. Donc, au début de la Terre, quand il n'y avait pas de vaches, quand il n'y avait pas de rizières, comment ça se passait? Eh bien, il y avait d'autres choses qu'on appelle les archées méthanogènes qui produisaient du méthane. Et combien de temps dure le méthane dans l'atmosphère? C'est une allumette, hein, le méthane, ça ne dure pas longtemps du tout. Ça dure 10 ans dans une atmosphère oxyque, c'est-à-dire dans une atmosphère dans laquelle il y a de l'oxygène. Mais quand est-ce que l'oxygène est arrivé sur Terre? Ça, presque personne ne le sait, alors que c'est un truc incroyable. Ouais, mais quand? Au début, au milieu, à la fin, quand? Bon, je vais vous le dire, il y a 2,4 milliards d'années. Donc, il faut vous rappeler trois chiffres. Le système solaire, 4,6. Les continents apparaissent à 3 millions d'années. Et l'oxygène apparaît sur Terre uniquement à 2,4 milliards d'années. Donc, au début, quand le méthane est produit par les archées méthanogènes, ben, il n'est pas oxydé. Il peut s'entasser aussi dans l'atmosphère. Et c'est donc ces deux couvertures qui nous ont sauvés de l'englacement. Alors, ça a très très bien marché sur 4 milliards d'années. Vous imaginez un avion avec le méthane d'un côté, le CO2 de l'autre. Si jamais il y a un accident sur un de ces gaz, c'est la catastrophe, on part vers le froid. Alors, il y a eu un accident qui est facile avec tout ce que je vous ai dit, c'est que quand l'oxygène est arrivé sur Terre, il a oxydé le méthane. Et le méthane est un gaz à effet de serre 25 fois plus fort que le CO2. Donc il a été oxydé en CO2 et ça a fait le premier grave accident. Et la Terre s'est transformée en boule de glace pendant quelques millions d'années. Puis tout est revenu dans l'ordre. Et il y a eu un deuxième accident grave quand le CO2 s'est écroulé à son tour. Il y a 600 millions d'années seulement. Alors ça, c'est un truc qui est synthétisé comme ça, là. Donc ça, c'est un schéma qui vous montre que grâce au gaz à effet de serre, il a toujours fait chaud sur Terre. Il n'y a pas eu trop de problèmes, sauf deux fois, il y a eu deux accidents. Un au moment de l'oxydation à cause du méthane, et une deuxième fois, je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est lié à la tectonique. Je vais vous expliquer le deuxième accident. Pourquoi je ne peux pas vous expliquer le premier accident? C'est parce qu'il y a 2,4 milliards d'années, on n'a même pas d'idée de comment sont les continents, comment sont les océans. Et donc, moi, comme modélisateur, je ne peux absolument rien dire. Alors que dans la deuxième crise, la crise qu'on appelle néoprotérozoïque, il y a 600 millions d'années, là, on sait très bien où étaient les continents, et donc on peut dire beaucoup de choses. Alors, je vais vous expliquer le deuxième accident, parce que c'est plus facile, parce qu'on a plus de données. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie de la valse, où vous allez voir que la tectonique, c'est-à-dire la position des continents, va changer. Va changer tout, en fait. Alors, d'abord, une petite histoire, parce que c'est toujours bien de raconter des histoires, surtout dans des endroits comme ici, Mendès-Prand, parce que ça montre quand même comment les sciences ont évolué. Donc le fait que la Terre ait pu complètement s'englacer, c'est une idée neuve. C'est-à-dire c'est une idée qui date du siècle dernier, mais de 1990. En fait, pour vous dire toute l'histoire, il y a eu un géologue qui s'appelle Harland, qui était géologue, donc lui il est sur le terrain, et il a vu sur le terrain des tillites. Et donc il avait la preuve, grâce à ces tillites, qui sont des marqueurs de glaciation, qu'il y avait des glaciations à l'équateur. Donc Harland s'est dit, s'il y a des glaciations à l'équateur, c'est que la Terre a été complètement englacée. Et il est allé voir les modélisateurs, comme moi, dans les années 60. Il y avait un modélisateur à l'ouest et un à l'est. Celui de l'est s'appelait Boudicco, et celui de l'ouest il s'appelait Sellers. Il est allé voir ces modélisateurs, il leur a dit, alors vous voyez, j'ai la preuve que la Terre a été englacée à cette période du néoprotérozoïque, qu'est-ce que vous en pensez? Et les modélisateurs lui ont dit, mon petit monsieur, ça se saurait, hein. Parce que si c'était vrai, on serait toujours englacé. Et pourquoi ils lui ont répondu ça? Ça, vous pouvez le savoir, vous, parce que vous avez vu tout à l'heure. Il faudrait que le soleil, on le tourne, sa puissance de une fois et demie ce qu'elle est aujourd'hui. Et ça, ça aurait mis des milliards d'années. À 7% par milliard d'années, il aurait fallu attendre longtemps. Et c'est pour ça qu'ils ont répondu à Harland, eh ben, c'est pas possible, ça saurait, on serait toujours englacé. C'était une très mauvaise réponse. Parce que eux, dans leur tête, pour sortir d'une planète englacée, il fallait que le soleil chauffe plus. Mais je vais vous montrer que ce n'est pas que ça, et qu'il y a d'autres solutions qui montrent que la Terre a pu s'englacer complètement. Alors maintenant, on va un peu parler du carbone. Tout à l'heure, je vous ai dit, la source du carbone dans l'atmosphère, c'est le volcan. Puis je vous ai dit, le puits, c'est l'érosion silicatée. Maintenant, on va réfléchir un pas de plus. Question verte. Quel est le plus grand désert du monde? Faites attention, si je vous demande ça, c'est qu'il y a un piège. Très bien, très bonne réponse. Mais ça, ce n'était pas un apéro, ça, c'est trop facile. C'est l'Antarctique. En Antarctique, il ne se passe rien. C'est d'ailleurs grâce au fait qu'en Antarctique, il ne se passe rien, que les calottes de glace s'amoncellent et qu'on peut remonter très loin dans le temps, jusqu'à 800 000 ans, en faisant des trous dans ces calottes. Donc, c'est l'Antarctique. Eh bien, si toutes les plaques continentales, toutes les masses continentales arrivent en Antarctique, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de cycle hydrologique, il pleut très peu en Antarctique, pas de cycle hydrologique, pas d'érosion, pas de capture de CO2, le CO2 monte. Donc quand toutes les plaques sont en haut, il devrait faire très froid, mais le CO2 monte, il ne fait pas si froid que ça. Maintenant, l'expérience inverse qui va nous intéresser ici. Quand toutes les plaques sont en position tropicale, alors là, elles sont rincées un maximum, et donc le CO2, on le retire massivement de l'atmosphère pour le mettre au fond des océans. Eh bien, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, il y a 800 millions d'années. On avait un gros continent qui s'appelait la Rodinia, qui était centré sur l'équateur et qui s'est cassé. Alors vous savez que les continents, vous ne le savez pas, les continents passent leur temps à se rassembler et à se briser. C'est comme un couple un peu, sauf que c'est 500 millions d'années là, le cycle, pour se rassembler et se casser. C'est ce qu'on appelle les cycles de Wilson. Mais en général, dans le cycle de Wilson, les continents se cassent n'importe comment. Et là, il y a 600-800 millions d'années, le gros continent s'est cassé en petites plaques. Et ça a été la situation géologique idéale pour faire chuter le CO2. Et comme le CO2 a chuté, ça a été la catastrophe. Alors, je vais vous le montrer. Alors, moi, je suis moins sexy qu'une fille qui présente la météo à 20h au journal de TF1. Mais ça, c'est la météo, enfin le climat, en fait, il y a 800 millions d'années. Alors, ça, c'est ce qu'on calcule. Donc, vous ne reconnaissez pas les continents parce qu'évidemment, ils étaient très différents. C'est le supercontinent Rodinia. Vous voyez que le taux de CO2 qu'on calcule, il était de 1800 ppm, c'est-à-dire très élevé. Aujourd'hui, c'est 400. Et vous voyez que, bon, grosso modo, la température, c'est un peu comme aujourd'hui. C'est pas tellement différent. Il faisait une température annuelle globale de 13 degrés. Bon, il faisait doux. Un peu frais pour la saison, mais doux. Alors maintenant, 50 millions d'années plus tard. Ça, c'est 50 millions d'années plus tard. Le Rodinia s'est complètement éclaté. Et chose extraordinaire, il s'est éclaté est-ouest. Il s'est éclaté dans la zone tropicale. Vous voyez que le CO2, il est maintenant de 500 ppm. Il a baissé de 1300 ppm, et cette fois-ci, il fait très, très froid, puisque le CO2, la couverture chauffante qu'il produisait, a quasiment disparu. Et c'est pour ça qu'on a cet accident froid. Alors voilà, je vous ai expliqué un peu les grandes régulations et les deux accidents des 4 premiers milliards d'années. On va passer maintenant à autre chose qu'on appelle dans notre jargon le phanérozoïque, qui correspond à ce qui se passe après l'explosion cambrienne, qui est en fait le démarrage de la diversité de la vie. Alors là, on a beaucoup, beaucoup plus de données. Donc c'est clair, deux accidents, un à cause du méthane, un à cause du CO2, et le reste du temps, il faisait chaud. Pas de questions pour l'instant ? Pas de questions. Hein. Si vous aviez... Il y a une question qu'il faut me poser normalement, là, si vous avez suivi.
Il n'y avait aucune vie auparavant.
Il y avait de la vie, mais pas de la vie fossilisée, pas de la vie qui se conserve. Il y avait de la vie, bien sûr. La vie, elle date de 3,8 milliards d'années. Mais là, normalement, vous devez me poser une question. Si vous êtes curieux, vous devez me poser une question. C'est un test, là. Bon, la question qu'on me pose, normalement, c'est mais pourquoi on est sorti de là, alors, puisque le soleil, ça ne suffit pas ? Eh bien, la réponse, je vais vous la donner, puisque vous ne me posez pas la question, je peux quand même vous donner la réponse. 60 ans après Harland, un autre Américain qui s'appelait Kirchfing a eu l'idée de génie suivante. Il a dit, mais pendant la Terre boule de neige, le volcanisme continue. Et donc le CO2 émis par les volcans, qu'est-ce qui devient ? C'est la source, il est mis dans l'atmosphère. Le CO2, normalement, aujourd'hui, il interagit avec la végétation, il interagit avec le plancton, il interagit avec les forêts, il interagit avec tout ça, avec la surface. Mais là, il y avait des banquises partout, des calottes de glace. Il n'y avait rien à faire, le CO2, il restait dans l'atmosphère. Il s'accumule jusqu'au moment où il est tellement fort, comme c'est une couverture chauffante, qu'il déglace tout. Et ça a été calculé combien de temps il fallait. Il faut des millions d'années. Il ne s'agit plus de milliards d'années comme le Soleil. Des millions d'années suffisent. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu deux épisodes qui ont duré que quelques millions d'années sur 4 milliards d'années froid. Bon, rideau, on va parler d'autre chose maintenant. On va s'intéresser aux 500 derniers millions d'années pour l'instant. Alors, à votre avis, est-ce que sur les 500 derniers millions d'années, maintenant que j'ai mis la slide, la figure, c'est plus facile, hein. Sur les 500 derniers millions d'années, à votre avis, est-ce que la plupart du temps, il y avait des calottes de glace, comme aujourd'hui, ou est-ce qu'il n'y en avait pas ? Là, c'est juste pour voir. Vous risquez rien à répondre. Bon, sur les 500 derniers millions d'années, il faisait chaud sur Terre. Le fait que nous, les hommes, depuis Toumaï, depuis 7 millions d'années, on voit des calottes de glace, on vit dans le froid, mais les dinosaures, vous connaissez la date de naissance et de mort des dinosaures, ils sont apparus autour de 250 millions d'années. Ils sont morts à 65, sauf ceux qui pouvaient s'envoler. Et donc, ils sont très vieux, les dinosaures. Ils ont vécu très longtemps par rapport à nous, entre 250 et 65 millions d'années. Et bien, ces dinosaures-là, ils n'ont quasiment pas vu l'ombre d'une calotte de glace. Il faisait chaud au Jurassique, il faisait chaud au Trias, il faisait chaud au Crétacé. Il n'y avait quasiment pas de calotte de glace. Donc, le monde qu'on connaît aujourd'hui est un monde très particulier, avec deux calottes de glace, une au nord, une au sud. La plupart du temps, sur Terre, il n'y a pas de calotte de glace. Alors maintenant, je vais vous décrire ce que vous allez voir. Je vais vous décrire l'impact de la tectonique. Vous allez voir un dessin animé sur lequel vous allez voir un prompteur qui décompte de 250 à 0. Et vous allez voir, dans la slide qui va venir, et vous allez voir le Gondwana. Je vous le dis parce que je voudrais que vous regardiez une chose. Vous allez voir le Gondwana, qui est le supercontinent, se casser en 5 morceaux. Vous allez voir l'Australie, l'Antarctique. Vous allez voir l'Afrique se séparer de l'Amérique du Sud et la naissance de l'Atlantique Sud. Et vous allez voir la plaque indienne déposer Madagascar et venir taper sur le continent asiatique. Je vous demande de regarder quand est-ce que l'Antarctique se met en position polaire. Alors, vous imaginez bien que quand tout ça, à des échelles géologiques, quand tout ça se met en place, ça modifie considérablement à la fois la dynamique, c'est-à-dire le transport de chaleur par les océans et les continents, puisque justement les continents occupent des places différentes, mais ça met aussi en évidence le fait que le CO2 va être différent. Donc vous me dites quand vous êtes à zéro, on peut le laisser deux fois hein, si vous voulez, mais voilà, on peut le laisser deux fois, d'accord. Donc ça, c'est vraiment depuis 250 millions d'années comment la Terre s'est déformée, et ça implique des changements de climat. Alors c'est bon, je peux y aller ? Alors, le climat normal, si quelqu'un vous demandait, bon, depuis 250 millions d'années, grosso modo, comment il a fait ? Ben, il a fait chaud. Alors, je vous ai pris un exemple là, c'est l'exemple du Crétacé moyen, c'est une période de très haut niveau marin, une période chaude, dans laquelle il y avait 6 à 8 fois le taux pré-industriel de CO2. Il faisait chaud, et du coup, les zones tropicales étaient énormément allongées vers les hautes latitudes, et on trouve des végétations tropicales à 40, 50 degrés nord ou sud. C'est un monde différent. C'est un monde très uniforme. Et là, ça, c'est un peu plus compliqué. Mais ce que ça vous montre, ça vous montre le gradient de température entre l'équateur, qui est au milieu, et les pôles. Donc vous voyez que la figure du dessus, la courbe du dessus, qui est assez épaisse parce qu'il y a des incertitudes, c'est la courbe du Crétacé moyen. Vous voyez que, d'accord, il faisait plus froid au pôle, mais pas tellement plus froid qu'à l'équateur. Donc c'était un climat très, très uniforme. Alors qu'en dessous, vous avez la situation actuelle, la nôtre, avec des calottes au pôle et un froid terrible en Antarctique et un peu moins terrible au Groenland. Ça, c'est vraiment ce qu'il faisait pendant la plupart du temps du dessin animé que je vous ai montré. Alors maintenant, on va rentrer dans un autre monde, un monde qui se rapproche un peu de nous. Vous avez observé que je me rapproche quand même. Hein. Je me rapproche. À la fin, je vais arriver à l'homme. Et avant ça, je vais arriver au singe. Et donc, depuis 40 millions d'années, pour des raisons qui sont quand même un peu mystérieuses, mais sur lesquelles on a des idées, mais pas de démonstration absolument rigoureuse, il s'est mis à faire froid, de plus en plus froid. Et le taux de CO2 atmosphérique s'est mis à baisser très considérablement. Et je vais vous montrer maintenant que c'est dans ce monde-là que nous, on apparaît. Donc ça, c'est la 25e diapo, vous allez à peu près au milieu, et c'est nous, en fait. C'est pas ni vous ni moi, mais c'est nos ancêtres. Et ce que je vais vous montrer là, c'est d'ailleurs, je suis très content de le faire ici à Poitiers, c'est issu d'une thèse qu'on a faite en collaboration avec le labo de Patrick, avec Jean-Jacques Gégère, une étudiante qui s'appelait Noémie Hamon, et qui montre que pour la première fois, pourquoi ces grands singes sont sortis d'Afrique ? Pourquoi ils sont sortis d'Afrique ? C'est une raison climatique. Donc je vais vous montrer que les migrations...
On est parti parce qu'il faisait trop chaud ?
Non. Oui. Non, mais attends, bientôt, je vais lui laisser le micro. Hein. Il est très fort. Ouais, c'est exactement ça. C'est ça. Je vais te le montrer exactement. C'est exactement ma diapo d'après. T'es sûr que tu vois pas avec une diapo d'avance ? Bon, alors ça va. Bon. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Il a donc fait de plus en plus froid depuis 40 millions d'années. Le CO2 baisse sans arrêt, continuellement. Mais entre 17 et 15 millions d'années, ce qu'on appelle dans notre jargon le milieu du Miocène, entre 17 et 15, il y a une embellie. Le CO2 remonte, il fait de nouveau chaud. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, on le sait, les forêts tropicales, qui avant étaient confinées en Afrique, montent en Europe. Et qu'à cause de ça, à cause de la migration de ces forêts tropicales, parce que nous, dans nos modèles, on n'a pas les grands singes, mais on peut calculer les conditions physiques nécessaires à l'établissement de forêts tropicales. Et donc, on va montrer avec nos modèles quelque chose que les gens qui font de la paléontologie savaient, c'est-à-dire que, ça c'est à travers le registre fossile, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une espèce de saga des grands singes qui, à 25 millions d'années, naissent en Afrique, ils restent jusqu'à 17 millions d'années. Là, il y a une partie d'entre eux qui vont faire le voyage de l'Europe et on commence à trouver dans le registre fossile des fossiles de grands singes, des gorilles, des orangs-outans, jusqu'au sud de l'Allemagne. Et pourquoi ils sont partis à ce moment-là ? Pas parce qu'ils avaient envie de faire une grande exploration, ce n'était pas des hulots, c'est parce que, en fait, comme eux, ils ont absolument besoin de fruits toute l'année, ils ont absolument besoin de forêts tropicales. Donc les grands singes sont inféodés aux forêts tropicales, et nous, on calcule les forêts tropicales, donc on peut tester ce scénario. Et donc ça, c'est le registre fossile. Et vous voyez qu'ils sont venus en Europe, puis il s'est mis à faire froid en Europe, beaucoup trop froid, et ils sont passés en Asie du Sud-Est. Et donc il y a ce grand voyage donc, qui dure entre 25 et 7 millions d'années d'une partie des grands singes de l'Afrique jusqu'à l'Asie du Sud-Est. Alors là, c'est peut-être la diapo la plus compliquée. Il y a donc 4 plots. Je vous explique. Nous, on a modélisé le climat du Miocène moyen. Donc, on a d'abord montré que ce climat, c'est le premier diagramme en haut à droite, c'est les températures au Miocène moyen par rapport aux températures actuelles. Et vous voyez qu'on est partout à peu près 2 degrés plus chaud. Il faisait plus chaud. Très bien. C'est bien pour les forêts tropicales, comme ça elles peuvent migrer au nord. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que le cycle saisonnier soit diminué, parce que le cycle saisonnier aujourd'hui, en Europe, ne permet pas aux forêts tropicales de subsister. Et on peut montrer qu'au Miocène moyen, en effet, ça, c'est le deuxième graphique du haut. Le cycle saisonnier, par rapport au cycle saisonnier aujourd'hui, était beaucoup plus faible. Donc tout ça, c'est très bon pour les forêts tropicales et leur migration. Et on peut montrer, puisqu'elles ont besoin d'eau, que le cycle de l'eau était aussi bien plus fort au Miocène moyen qu'aujourd'hui. Donc tout concourait en fait à la modélisation de forêts tropicales qui passent à l'Europe, et c'est ça en fait, c'est ce contexte climatique qui a permis la migration des grands singes de l'Afrique à l'Europe. Bon, alors maintenant je vais vous montrer autre chose qui est aussi très très impressionnant, qu'on a publié il n'y a pas longtemps, c'est que en fait on avait à cette époque-là, entre 40 et 0, une énorme mer entre l'Europe de l'Est et l'Asie de l'Ouest. Une mer extraordinairement grande. Et ça donnait un climat extrêmement doux à toute cette région du monde. Mais il se trouve qu'entre 40 et 7 millions d'années, cette mer, à cause de la tectonique des plaques, a disparu. Et donc cette mer, au fur et à mesure du temps, elle devient petite. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste de ça? Il nous reste le lac Baïkal, la Caspienne et la Méditerranée, c'est tout. Alors que c'était une immense mer. Et ce qu'on peut montrer, c'est que quand cette mer se retire, avec nos calculs de climat, on peut montrer que ça aridifie extraordinairement le nord de l'Afrique, et en fait, ça donne la naissance, c'est la naissance du Sahara. Et une autre chose très importante qui se passe à cause de la disparition de cette mer, et qui nous concerne, parce que c'est le climat et les variations climatiques qu'ont connues nos ancêtres, Toumaï, Abel et tous les autres, c'est que quand vous avez une grande mer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ben les hivers sont doux, et les étés aussi, et vous avez une variation saisonnière qui est faible. Il y a d'autres variations à de plus grandes échelles de temps que la saison, qu'on appelle les variations orbitales, qui concernent les moussons. Les moussons étaient très faibles avant, parce qu'il y avait cette grande mer, il n'y avait pas de possibilité de chauffer un supercontinent, et donc il y avait très peu de moussons. Mais quand cette mer a disparu, il y a eu des moussons très importantes, et des périodes avec des moussons importantes, et des périodes très sèches. Et ce qui a constitué une autre des très grandes collaborations qu'on a eues avec le laboratoire de Poitiers, c'est le fait que le lac Tchad est un extraordinaire amplificateur de ce signal de mousson. Pourquoi ? Parce que dans les périodes humides, il se remplit, il devient presque aussi gros que la France. La France, c'est 550 000 km², le lac Tchad, il arrive à 400 000 km². Donc il se remplit pendant les phases humides et il redevient petit pendant les phases sèche. Donc ce qui s'est sans doute passé, ce qu'on pense, c'est que en fait, quel était entre 7 millions et 2 millions, entre Toumaï et Lucie, quelles étaient en fait les variations climatiques qu'avaient à subir nos ancêtres? C'était des phases extrêmement humides où on pouvait aller à l'ouest et des phases extrêmement sèches où on ne pouvait pas aller à l'ouest. Et donc ça explique certainement une part de la distribution des hominidés. Et avec ça, je passe à la troisième temps de la valse, qui est le temps orbital. Alors là, on se rapproche. Maintenant, on n'est plus qu'à 1 million d'années. Alors, c'est quoi le climat depuis 1 million d'années? C'est une succession de phases glaciaires et de phases interglaciaires. On connaît, c'est la seule période de toute notre histoire du climat dont je vous parle depuis le début, où on connaît le CO2 avec précision. Pourquoi? Parce qu'on a ces forages en Antarctique où on peut avoir les bulles qui sont des reliquats de l'atmosphère telle qu'elle était entre 0 et 800 000 ans. Donc on peut savoir très précisément combien il y avait de CO2 dans l'atmosphère. Alors combien il y avait de CO2 dans l'atmosphère? Eh bien, il y en avait, ça oscillait pour les phases froides, entre 180 et 280. Ça veut dire que depuis 1 million d'années, le CO2, il bouge très peu, il est bas. Il bouge entre 180 pour les phases glaciaires et il monte à 280 pour les phases interglaciaires. Sur ce schéma, ce que vous voyez, c'est que, contrairement, encore une fois, à ce qu'on peut avoir l'impression en vivant une petite vie d'homme de 120 ans, par exemple, on peut avoir l'impression qu'il y a toujours eu des calottes de glace, une au sud, une au nord. Mais non. La plupart du dernier million d'années, 80% du temps, il n'y a pas deux calottes de glace, mais quatre calottes de glace. Il y en a une énorme sur l'Amérique du Nord, qui s'appelle la Laurentide, qui fait à elle toute seule 90 mètres de niveau marin, alors que l'Antarctique en fait que 50. Et une autre calotte de glace sur l'Europe du Nord qui fait 30 mètres de niveau marin équivalent. Et la plupart du temps, on est en situation glaciaire, avec 4 calottes de glace, et 20% du temps, le temps dans lequel nous, on vit, on a 2 calottes de glace, le Groenland et l'Antarctique. Alors pour cette dernière période de temps, je peux vous montrer beaucoup plus de choses, parce qu'on sait quels sont les forçages, donc ça c'est du jargon de modélisateur, mais ça veut dire qu'on sait qu'est-ce qui va faire changer les choses. Alors, ce qui fait changer les choses, c'est l'insolation au sommet de l'atmosphère, qui varie et qu'on peut calculer mathématiquement, et le CO2, dont je vous ai dit qu'on pouvait le trouver dans les bulles. Alors maintenant, je vais vous montrer un dessin animé que je vais vous expliquer aussi. Vous allez voir, vu du nord, la planète, il y a 125 000 ans.
lors du précédent interglaciaire. Ça veut dire de la précédente phase qui est comme la nôtre. Vous allez voir le Groenland. Et puis vous allez voir ce que c'est vraiment qu'un cycle glaciaire-interglaciaire vu par les calottes. Vous allez voir pousser une énorme calotte, la calotte Laurentide, en 80 000 ans à peu près, la calotte Fano-Scandienne, et vous allez les voir disparaître en moins de 10 000 ans. Et c'est ça un cycle glaciaire. Et depuis un million d'années, on oscille comme ça, on fait une succession de cycles glaciaire-interglaciaire. Donc ça, c'est il y a 125 000 ans. Vous êtes là aujourd'hui, il y a le Groenland, il n'y a que le Groenland, et vous allez voir pousser une énorme verrue, mais véritablement énorme, qui est à peu près 15 fois plus grande que le Groenland, 3 km de haut, et à côté, et un peu plus tard, vous allez voir pousser la calotte de l'Europe du Nord, la calotte qu'on appelle Fennoscandienne, qui est sa petite sœur, mais qui est beaucoup plus petite, 30 mètres de niveau marin. Et vous allez voir qu'en fait, elles mettent énormément de temps à se construire. Par contre, elles disparaissent très vite. C'est en 10 000 ans, elles disparaissent. Et puis, ça, là, je vous montre un seul cycle, mais ces cycles se succèdent. Et il y a comme ça, depuis 800 000 ans, 8 cycles glaciaires, interglaciaires. Donc, on sait très bien comment ça se passe. Alors maintenant, je vais vous montrer une autre figure. Et je vais vous dire, bon, cette figure-là, elle montre les enregistrements qu'on a des phases glaciaires, interglaciaires. Donc, l'Holocène, la période où on vit 10 000 ans. Vous voyez, on se rapproche de plus en plus. 10 000 ans, l'Holocène, c'est une période très tranquille. Il ne se passe rien. Avant, en glaciaire, vous voyez qu'il fait plus froid, c'est plus bas, il fait plus froid, d'accord. Mais qu'est-ce que vous voyez qui est quand même vachement spectaculaire? C'est pas tellement qu'il fait plus froid, c'est autre chose. Vous voyez rien, hein? Si vous voyez rien, c'est grave. Moi, que je vois rien, c'est normal, mais vous devriez voir. Ben, vous voyez que c'est très instable. Un monde à 4 calottes de glace, un monde glaciaire, c'est très instable. Et pourquoi c'est très instable? Parce que la grosse calotte Laurentide, elle a le mauvais goût, tous les 7000 ans, de lasser un énorme paquet d'icebergs dans l'Atlantique Nord. Et ça casse la circulation océanique, ça veut dire que ça casse tout l'apport de chaleur de l'océan. Et à peu près tous les 7000 ans, elle fait ça. Et c'est ce que vous voyez, les espèces de zig que vous voyez, c'est ça. Très bien. Alors nous, comme on travaille, nous les modélisateurs, on n'a pas beaucoup d'imagination, on travaille à la demande. Des fois, on travaille pour Poitiers, qui ont des demandes, et puis des fois, c'est Bordeaux. Et là, c'était des gens de Bordeaux qui étaient venus nous dire, c'est quand même très bizarre parce que il y a 40 000 ans, vous voyez qu'on se rapproche encore, il y a 40 000 ans, lors d'un de ces événements d'iceberg, là, les Homo sapiens qui étaient là, qui étaient dans le sud de la France, qui avaient traversé les Pyrénées, qui s'étaient installés au nord de l'Èbre, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent et ils ne descendent pas plus au sud, ce qui fait que les Néandertaliens qui étaient là, ils sont restés là beaucoup plus longtemps que partout ailleurs en Europe de l'Ouest. Est-ce que ce ne serait pas climatique? Alors nous, on était contents. Parce que souvent, on nous pose des questions, on ne sait pas répondre. Mais là, on pouvait répondre. Parce qu'il y a 40 000 ans, c'est beaucoup de choses. On sait le CO2, on sait la calotte de glace, évidemment, on sait la distribution des continents. On sait plein de choses. Donc, on a fait des simulations numériques pour voir qu'est-ce qui se passait quand il y avait un de ces événements qu'on appelle Heinrich de vomissement de la calotte Laurentide dans le Nord-Atlantique. Et en fait, on a été un peu déçus parce qu'on a vu que sur l'Espagne, eh ben, ça avait un effet thermique, mais un refroidissement d'à peu près 1 degré. Par contre, quand on a regardé le cycle hydrologique, l'aridification, on s'est rendu compte qu'en Espagne, il faisait beaucoup plus sec au sud et au centre de l'Espagne. Et donc, du point de vue végétation, ça donnait ça. En fait, l'Espagne, au lieu d'être couverte de forêts, elle était très rapidement transformée en toundra taïga, c'était la steppe. Et ça, c'était pas très bon, c'était pas un environnement extrêmement hospitalier pour les Homo sapiens, qui n'étaient pas pressés, il n'y avait pas une démographie galopante, de descendre au sud, et ils sont descendus au sud bien plus tard. Et ça, c'est donc bien en accord avec ce qu'on sait de la fin des campements néandertaliens. Donc là encore, le climat a joué un rôle assez important sur la distribution géographique de nos ancêtres. Très bien. Donc maintenant, je vais vous montrer une petite diapo et je vais vous poser une question. En fait, vous avez vu que l'Holocène, les 10 000 années, c'était très stable. Il y avait plus, on s'était débarrassé de la calotte Laurentide qui générait beaucoup de bruit et beaucoup d'instabilité. La question qui va se poser maintenant, c'est on est en train de changer le climat. Est-ce que finalement, si on change le climat, on ne va pas déstabiliser la calotte du Groenland et la calotte de l'Antarctique? Ces deux vieilles calottes qui sont là depuis 34 millions d'années pour l'Antarctique et 3 millions d'années pour le Groenland, qui ont résisté à beaucoup de choses, est-ce que nous, les hommes, on est capables de, éventuellement, les désinguer? Donc maintenant, on va passer au temps de l'homme. Et comme c'est la COP 21, j'ai rajouté quelques diapos à mon exposé, 3-4 diapos, pour que vous ayez en tête quelques figures résumées, disons. Alors la première figure, c'est que c'est une figure qui résume, si vous voulez, c'est les figures du rapport de synthèse de GIEC, qui sont les rapports scientifiques qui précèdent les COP pour montrer aux politiciens ce qu'on pense et l'état de l'art en climat. Donc là, ce que vous voyez, c'est la preuve que ça bouge. Alors, la preuve que ça bouge, évidemment, c'est la température, c'est la remontée du niveau marin. Donc ça, vous voyez la température, vous voyez la remontée du niveau marin, son évolution. Vous voyez aussi l'émission du CO2, du CH4. Et sur le quatrième plot, en bas à droite, vous voyez que tout ça, les émissions de carbone, ce n'est pas du tout naturel. Hein. C'est vraiment lié à l'homme. Alors nous, à partir de là, je vous ai montré que dans le passé, on arrive à trouver plein de choses avec nos modèles. On utilise en fait les mêmes modèles dans l'avenir. Donc c'est des modèles assez sophistiqués. C'est des modèles qui comprennent beaucoup, beaucoup de physique et qui tournent sur des énormes calculateurs. Et avec ces modèles-là, on peut essayer d'avoir une idée de ce qui va se passer dans 100 ans. Je vous montre deux graphes. Je vous montre en fait la température, les scénarios de température dans 100 ans, avec deux scénarios. Un scénario qu'on appelle en anglais business as usual. En gros, ça vient dire qu'on ne s'adapte pas, on continue comme si de rien n'était. Ça, c'est le scénario 8.5. C'est sur ce scénario qu'on est, hein, le scénario le pire, mais on y est. Pour l'instant, on y est. Depuis 2006, si vous voulez, on est en 2015, ben, on suit, voire on est en dessous, au-dessus de la courbe la pire. Et puis un scénario qui est un scénario où on fait de l'adaptation. Alors vous voyez qu'évidemment, c'est très très différent. Hein. Dans un cas, on augmente la température entre 2 et 0 degrés, et dans l'autre cas, entre 2 et 7 degrés. Donc c'est très différent. C'est très différent aussi pour le niveau marin, évidemment, parce que dans un cas, on ne touche pas la calotte, dans l'autre cas, on la fait fondre, en partie. Et je vous montre aussi la moyenne de tous les modèles en température et en précipitation, toujours avec ces deux scénarios, le pire et le mieux, en termes, cette fois-ci, de température et de précipitation. Donc vous voyez qu'on est en train de changer considérablement le climat de la Terre en un temps extrêmement bref. Alors moi, je vais m'intéresser pour les quelques dernières slides qui restent à vous faire réfléchir sur la cryosphère, puisque j'ai beaucoup parlé des calottes de glace. Alors les calottes de glace et le niveau marin. Alors le niveau marin et les calottes de glace, aujourd'hui, vous savez qu'on dit que le niveau de la mer monte. Mais ça, c'est une question facile. Mais si vous la gagnez, vous pouvez quand même avoir un apéro. Si vous faites la même manip que celle qu'on est en train de faire, mais au temps des dinosaures, qu'est-ce que ça changera? La même chose, on fait la même chose. Qu'est-ce que ça changera au niveau du niveau marin? On brûle du fossile, on met beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. On est des dinosaures, on n'est plus des hommes. Dans un contexte différent, quelle est la différence majeure? Comment? Allez-y, il ne reste plus beaucoup de ça, vous pouvez vous lâcher. Hein. Ah voilà, il n'y a pas de glace. Ce que les gens ne pensent pas, c'est qu'on est en train de faire une expérience de réchauffement massif dans un monde froid. Alors, les dinosaures auraient fait la même chose, le niveau de la mer aurait quand même monté. Pourquoi? Parce que quand on réchauffe, il y a la dilatation thermique, les molécules d'eau se sentent mieux, elles prennent plus de volume, et le niveau de la mer monte. Mais ça aurait été un des seuls phénomènes. Il n'y aurait pas eu la disparition des glaciers et la fonte des calottes. Mais nous, on vient d'un monde froid, il va y avoir ça. Donc ça, c'est une chose très importante. Et ce que je vous montre là, c'est les estimations de remontée du niveau marin liées aux calottes. Ça, c'est l'avant-dernier rapport. Mais en gros, on pense que ce sera de l'ordre de 50 cm à 1 mètre, la remontée du niveau marin, d'ici la fin du siècle. Alors, je vais vous montrer que ce n'est peut-être pas si simple que ça, pour deux raisons très faciles. Alors, la première, c'est qu'il y a deux choses différentes. Il y a le fait d'acheter une boule de glace au citron à votre gamin, et il la mange pas, et elle va fondre au soleil. Elle va fondre de façon très linéaire. Et la calotte de glace du Groenland ou de l'Antarctique, qui, quand on va la chauffer, elle va répondre par burst. Et ça, on le sait grâce au passé. C'est-à-dire que ça va être par à-coup. Il va y avoir des pertes d'iceberg, mais pas de façon linéaire, mais par à-coup. Et une bonne façon de montrer ça, c'est les enregistrements qu'on a de la dernière déglaciation. La dernière déglaciation, c'était il y a 20 000 ans à peu près. Donc si on regarde depuis 30 000 ans comment évolue le niveau marin, on voit que ça marche par burst. Il y a des périodes d'accélération très très fortes. Une autre chose encore plus proche de nous, c'est en 2002. En 2002, il y a la fonte de la plateforme Larsen Bay, qui est une énorme plateforme en Antarctique. C'est une plaine de glaçons, si vous voulez. C'est un énorme glaçon qui est dans la mer en Antarctique. Alors les plus malins d'entre vous, dont le jeune homme qui est là, j'imagine, vont me dire, mais on s'en fout de ça, puisqu'il est déjà dans l'eau de glaçon, c'est pas lui qui va faire remonter le niveau marin. C'est tout à fait juste. Mais alors pourquoi c'est grave? C'est grave parce que quand ces plateformes disparaissent, ces plateformes, elles servent d'arc-boutant à la calotte posée. Ça veut dire que la calotte posée, la calotte antarctique, elle est accrochée à la Terre et elle est maintenue par ces plateformes de chaque côté. C'est l'effet arc-boutant. Quand vous faites fondre ces plateformes, vous ne changez pas le niveau de marin, mais par contre, vous lâchez les contraintes sur la calotte. Et qu'est-ce qui se passe? Les glaciers arrivent très fort, vous perdez beaucoup d'icebergs et vous faites fondre votre calotte. Donc, ces plateformes participent indirectement, et ça on le sait, on l'a mesuré par satellite, à la fonte des calottes. Donc nous, on pense qu'il est très probable que les calottes de glace qu'on a aujourd'hui, celles qui sont fragiles, c'est-à-dire celles du Groenland et celles de l'Antarctique de l'Ouest, elles peuvent fondre de façon très rapide et très non linéaire. Donc ça vaut le coup de regarder ça, c'est ce qu'on fait. Pourquoi ça vaut le coup? C'est parce que ça, ce sont des études qui montrent qu'est-ce qui se passerait du point de vue migration si on monte le niveau marin de 50 cm ou de 2 mètres. Et vous voyez qu'en Asie, surtout en Asie, ça correspond à des migrations de populations de centaines de millions de personnes. Et ça, ce n'est pas la fonte du Groenland, c'est 6 mètres. Pas la fonte de l'Antarctique, c'est beaucoup plus. C'est juste 0,5 ou 2 mètres de niveau marin. Donc, on est en train de faire une expérience qui... Beaucoup de gens disent « Ah, il faut sauver le climat » ou « On abîme notre planète ». Mais la planète, elle s'en fout. Vous avez bien vu. La planète, elle survivra à l'homme tranquillement. Elle a encore 6 à 8 milliards d'années à faire. La planète, elle s'est remise de beaucoup de choses. Non. Le seul problème, là, c'est qu'on est 7 milliards d'hommes, qu'on va être 9 milliards d'hommes et qu'on est en train de jouer avec le feu en faisant des changements très, 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 très rapides. Et donc, tout le problème est là de gérer, compte tenu du fait qu'on n'est pas 3 tribus d'Homo sapiens perdus sur le continent européen ou asiatique. On est 9 milliards avec, on sera 9 milliards avec à peu près 50% de la population qui sera directement touchée par des remontées de niveau marin. Donc, j'en arrive à la fin de l'exposé. Et là, pour ceux qui se sont endormis, je fais un petit résumé. Donc, il y a 4 temps à la valse. À la valse, vous deviez être encore éveillé. Il y a 4 temps à la valse. Il y a le temps du milliard d'années qui est en gros forcé par l'évolution normale de notre Soleil. OK. Il y a eu peu d'accidents sur les 4 premiers milliards d'années. Je vous l'ai montré, sauf 2 fois, 2 accidents graves, dont on s'est très bien remis grâce au volcanisme et au CO2. Ensuite, il y a la tectonique des plaques. Je vous ai montré un dessin animé qui montre comment les continents changent et du coup, les climats changent. Mais la plupart du temps, il faisait chaud. Ensuite, il y a les paramètres orbitaux qui font que depuis 1 million d'années, on oscille entre un climat très froid et un climat un peu moins froid, mais froid. Et puis enfin, il y a l'échelle de l'homme, qui est celle de la centaine d'années, c'est-à-dire en gros 1000 fois plus vite que tout ce qu'on a connu jusqu'à présent, et qui, lui, est en train de changer le climat à l'échelle de centaines d'années, avec une vitesse, c'est pas tellement les 402 ppm qu'on a aujourd'hui dans l'atmosphère, c'est surtout la vitesse à laquelle on fait ce changement. Voilà, je vous remercie.
On va passer aux questions. Je pense qu'il y en a déjà dans la salle. Je ne sais pas, le micro est devant, je peux vous l'apporter. Donc, s'il y a des questions. Voilà, attendez, hop.
Comment elle a été créée, l'oxygène, au départ? Parce que au départ, il n'y avait pas d'arbres. Au tout départ, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas de végétation.
C'est une très bonne question. Même moi, j'ai écrit un livre, tu vois, sur le climat de la Terre depuis le début jusqu'à la fin, et l'oxygène, donc écrire un chapitre sur l'oxygène, c'est un vrai casse-tête. En fait, au début, il n'y avait pas du tout d'oxygène sur Terre. Il n'y avait vraiment pas d'oxygène sur Terre. Et ça a duré longtemps, avant que ce soit mesuré. Et donc, on a commencé à mesurer des teneurs en oxygène à 2,4 milliards d'années. Alors, qu'est-ce qu'on pense qui se produit? Les molécules d'eau s'évaporent. Et sur Terre, elles s'évaporent, elles montent. Elles montent en hauteur. Et comme tu le sais, plus on monte, plus il fait froid. Et quand tu prends l'avion, si tu prends l'avion, pour voir trop grand l'avion, eh ben, il fait moins 50 degrés. Et là, l'atmosphère est tellement sèche qu'il n'y a quasiment plus d'eau. Et donc, les molécules d'eau, et donc heureusement, parce que sinon on perdrait nos océans, les molécules d'eau, il y en a très très peu qui arrivent à s'échapper. Et quand elles arrivent très très peu à s'échapper, elles passent la stratosphère, et là, elles reçoivent les rayonnements du soleil, et elles sont cassées. Et le célèbre couple H2O est cassé. Et que fait l'oxygène ? L'oxygène, il est léger, il se barre, il sort de la Terre, on peut le voir, on peut le mesurer, il y a de l'oxygène qui sort à très bas. Mais l'oxygène, qui est un gros lourdeau, il retombe. C'est des tout petits flux, et quand l'oxygène retombe, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il devient ? Eh bien, il oxyde la croûte marine, il oxyde la Terre, la croûte qu'il y a sous les océans. Et ça, il va le faire pendant longtemps. D'abord, c'est des tout petits flux, il va le faire pendant longtemps. Puis il va arriver au moment donné où la croûte, elle va être suffisamment oxydée, et où l'oxygène, il va donc passer dans la colonne d'eau. Et puis après, il va passer dans l'atmosphère. Et puis là, il va pouvoir rester dans l'atmosphère et dans l'océan, et ça va être une révolution complètement biologique. C'est-à-dire qu'avant, tu avais des archées méthanogènes qui produisaient du méthane, qui étaient là, tranquilles, pépères, et qui n'avaient pas de prédateurs, qui étaient bien. Et tout à coup, l'oxygène va arriver, et ça va être un genre d'holocauste, c'est-à-dire que pour ces archées méthanogènes, l'oxygène, c'est un poison, donc elles vont disparaître, elles vont aller se réfugier au fond des océans, elles ne vont plus produire de méthane, du coup, le climat va changer. Et donc, c'est une révolution à la fois biologique, très importante, l'oxygène, et une révolution climatique, parce que comme on va oxyder le méthane, comme je vous l'ai dit, ça va conduire à une glaciation. Donc voilà, il n'y a pas eu d'oxygène pendant très longtemps, parce que l'oxygène, il montait, mais à tellement bas bruit qu'il était imperceptible, et dès qu'il était cassé, ce qui était très peu le cas, il était récupéré pour oxyder la croûte, et il a mis très très longtemps à percoler, 2 milliards d'années, à percoler dans la colonne d'eau. Et par contre, ça a été une transformation irréversible, c'est-à-dire qu'en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, mais bon, c'est-à-dire qu'une fois que l'oxygène s'est installé, il a toujours été présent.
Oui, j'aurais une question sur les moyens de mesure. Je vois très bien comment avec l'exploitation des carottes prises dans la glace qui permettent de remonter très loin et en analysant la composition gazeuse, comment on voit les proportions. Par contre, pour évaluer les températures qui existaient à ce moment-là, sur quel moyens physiques on se base là, pour évaluer les températures ?
Ouais, c'est une excellente question. Alors, malheureusement, à toute échelle de temps, sauf les 200 dernières, on n'a pas de paléothermomètre ni de paléosaut pour les précipitations. Et donc, il y a une chose dont je ne parle pas parce que moi, je suis modélisateur, mais vous avez vraiment raison de poser cette question, c'est comment on mesure ? Alors, en fait, c'est très compliqué parce qu'il faut avoir des paléo-indicateurs. Et c'est très indirect. Il n'y a pas justement de paléothermomètre. Alors, comment on fait, par exemple, pour les glaces ? Alors, il y a pas mal de méthodes, mais il y en a beaucoup qui tournent autour des isotopes. Alors, dans l'eau, il y a de l'oxygène 16 et de l'oxygène 18. Et en fait, on peut montrer que l'oxygène 18, la répartition de ces isotopes dans l'eau, est une signature de la température. Et donc, on a d'autres méthodes de mesure, mais c'en est une. Et dans les océans, on a d'autres méthodes de mesure. On a aussi des mesures isotopiques, mais on a des mesures qui sont plus faciles à comprendre. Bon, c'est aussi vrai sur les continents, qui sont basées sur le fait que quand vous avez des températures aujourd'hui sur une parcelle de terrain, ces températures sont équivalentes, par exemple si c'est une parcelle marine, à avoir 10% de telle espèce de coquillage, 10% de telle espèce de foraminifère. Vous avez, si vous voulez, une fonction de transfert entre les bêtes qui vivent à cette température et la température. Et quand la température change, les distributions changent. C'est assez rapide. Et donc, on peut comme ça aussi calculer les paléotempératures. Il y a plein de méthodes qui permettent de calculer des paléotempératures et on recoupe ces différents indicateurs. Alors, il y a plein d'indicateurs. Et comme ça, on a une vision relativement fiable des températures depuis très longtemps. C'est-à-dire que on peut remonter, alors avec les glaces et les bulles, je vous l'ai dit, on peut remonter que pour 800 000 ans. Donc les glaciologues espèrent qu'avec un nouveau forage, ils arriveront à 1 million d'années, voire 1 million 200 000 ans. mais on ne fera pas mieux. Donc on n'aura jamais le CO2 directement. Et alors je ne vous raconte pas, il y a des paléo-indicateurs de CO2, c'est très compliqué, mais il y a des paléo-indicateurs de CO2 qu'on peut avoir de façon indirecte à partir, ça ne vous dira rien, mais de chaînes carbonées insaturées d'alkénone, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une distribution entre les doubles et les triples liaisons de bestioles marines qui sont directement proportionnelles à la température. Donc on a les gens, il y a des spéléothèmes aussi dans les grottes, les gens, les pollens aussi, les pollens beaucoup, les gens ont indiqué, ont inventé énormément de paléo-indicateurs quantifiés de température. Et en croisant tous ces paléo-indicateurs, on arrive à avoir une idée à peu près précise des variations de température. C'est un travail extrêmement dur et extrêmement rigoureux aussi.
Mais dans tous les cas, si on touche à la... on est sûr que... Est-ce qu'on peut être sûr que les calottes de glace, elles vont...
fondre.
Elles vont fondre ?
Non.
Parce que si on n'y touche pas, il y a le CO2 et du coup, elles vont fondre. Et si on y touche, elles seront tellement fragiles qu'elles vont s'effondrer.
Non, mais elles ne sont pas tellement fragiles. Elles sont très fragiles à l'échelle géologique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas souvent des calottes de glace, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont elles-mêmes fragiles. Bon, je ne sais pas, je ne me rends pas compte parce que je ne vois pas bien, mais je pense que dans la salle, tu es en fait celui qui est le plus concerné. C'est-à-dire, il y a deux possibilités. Soit on continue comme maintenant et on va fondre, en effet, les calottes de glace. Et d'ailleurs, une chose que je n'ai pas dite, mais qui va vous laisser rêveur, je pense, c'est qu'aujourd'hui, on est à 402 ppm, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 402 parties par million de CO2 dans l'atmosphère. Très bien. Si on se dit, bon, je vous ai dit que depuis un million d'années, ça a varié entre 180 et 280, donc on a explosé le truc. Si on remonte dans le temps et qu'on se dit, tiens, quand est-ce qu'il y a eu 402 ppm dans l'atmosphère ? Ben, c'était il y a 3 millions d'années, c'est pas si loin. Il y a 3 millions d'années, ah bon, c'était comment le climat il y a 3 millions d'années ? Ben, c'était chaud, 10 mètres de niveau marin de plus, pas de Groenland et pas d'Antarctique de l'Ouest. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans un climat à l'équilibre, il y a 3 millions d'années, dans les conditions actuelles, on est en transitoire, puisqu'on change très vite, eh ben, on n'avait pas de Groenland et pas d'Antarctique. Donc, si tu veux, la réponse à ta question, c'est... Enfin, pour moi, la réponse à ta question, c'est... Soit on continue comme on est maintenant, et fatalement, on ira vers une fonte partielle ou totale des calottes de glace, soit on émet... Parce que, puisque le problème, c'est le CO2. On émet moins de CO2, c'est tout l'enjeu de la COP21, là. Et dans ce cas-là, on protège nous. On protège nous, d'abord. Parce que la calotte de glace, on peut vivre sans calotte de glace, mais on ne peut pas laisser le niveau marin augmenter trop vite, parce qu'il y a des centaines de millions de personnes, voire des milliards de personnes, qui vivent dans des zones où ils seront directement impactés. Et si les Hollandais ont 50 cm de niveau marin de plus, ils sauront faire des digues, peut-être pas les gens du Bangladesh. Donc il va y avoir aussi, pour le même forçage climatique, ça c'est des réponses qui seront forcément différentes. Donc on a intérêt à protéger les calottes de glace, mais surtout, on a intérêt à les protéger pour nous protéger nous.
Mais est-ce que c'est un phénomène qui peut s'arrêter comme ça, quasiment du jour au lendemain ? Bah, par exemple, si, admettons qu'on arrive à stopper nos émissions de CO2, est-ce que la fonte des glaces, enfin l'effet de serre, ça peut s'arrêter aussi rapidement ? Ou alors le phénomène sera trop engagé et finalement, bah, il y aura fatalité, quoi.
Ouais, bah, c'est une très bonne question aussi. Bah, en fait, le système Terre, il a une certaine inertie. Alors je vous ai dit que le méthane, on arrête les productions de méthane du jour au lendemain. Ben, en fait, comme le méthane ne dure que 10 ans, ce n'est pas très important. Par contre, le CO2. Le CO2, pour revenir naturellement, on arrête d'envoyer du CO2 à l'atmosphère, on laisse la Terre se reposer, ingérer le CO2. Combien il lui faudra de temps ? Sans nous, on n'intervient plus, on le laisse faire, pour revenir à un CO2 à l'équilibre plus faible. Il lui faudra des milliers d'années. Donc ce n'est pas neutre du tout. Donc, ce qu'on fait n'est pas neutre. Il y a plein de gens qui vont vous dire, ouais, mais on peut aussi le stocker, on peut faire plein de choses. Et dans ce cas-là, évidemment, la réponse sera différente. Si on arrive à stocker des grosses quantités de CO2, on va faire baisser le CO2 de façon artificielle, mais peut-être efficace. Mais en tout cas, si on laisse la Terre le faire toute seule, elle va prendre ce temps-là, milliers d'années. Et comme vous avez dit, il y a une certaine inertie, c'est-à-dire que toute la chaleur qui a été accumulée là, à cause du fait qu'on augmente le CO2 petit à petit, ben, elle ne va pas s'évacuer complètement. Et donc, par exemple, c'est un très bon exemple pour les calottes de glace. Les calottes de glace, ce n'est pas parce qu'on va arrêter de chauffer maintenant qu'elles vont fondre. Pourquoi ? Parce que la calotte de glace, ce n'est pas de la neige. C'est une calotte qui fait 3 km de profondeur. Donc le manteau neigeux, il fait... Donc il y a un profil dans ce manteau neigeux. Hein. Donc il fait très froid en haut, au niveau de la surface. Et puis, si jamais... Et puis ça se réchauffe tant dans le manteau jusqu'au socle basaltique. Si votre socle basaltique, il arrive à 0 degré, votre calotte, elle peut riper, elle peut partir. Donc en fait... Il y a une espèce d'inertie énorme de température thermique de la calotte qui fait que même si on arrête, eh ben on n'arrêtera pas. Il y aura un certain temps pendant lequel la calotte continuera à fondre. C'est pour ça que le plus tôt on s'y prend, le mieux ça vaut.
Le CO2 est dans la proximité de l'atmosphère.
Comment ?
Pardon. C'est vrai. Le CO2, il ne va pas plus haut que l'atmosphère, c'est-à-dire 10 000 mètres.
Alors,
il passe pas la barrière.
Non. En fait, il y a très, très peu de choses qui passent la barrière. La stratosphère, c'est-à-dire la couche qui est au-dessus de l'atmosphère après la tropopause, il y a presque rien. Hein. Donc il y a très peu de CO2 qui passe au-dessus. D'ailleurs, ce serait une très bonne chose si le CO2 pouvait partir par lui-même. Mais ce n'est pas ce qui se passe. En fait, le CO2, ce qu'il fait, c'est qu'il fait son effet de serre. C'est-à-dire qu'en fait, les rayonnements infrarouges qui sont réémis à la surface de la Terre, ils sont bloqués en fait, par les gaz à effet de serre. Et du coup, parce qu'il y a des gens qui disaient que c'était le Soleil qui produisait l'effet anthropique, mais le Soleil, si vous voulez, il n'aura jamais cette signature qu'a le CO2, parce que la signature du CO2, c'est je réchauffe l'atmosphère, et comme je ne laisse pas les rayonnements infrarouges repartir, puisque je les piège, je refroidis la stratosphère. Et cette image d'une stratosphère plus froide avec une troposphère plus chaude, c'est vraiment la signature de l'effet de serre. C'est pour dire que les gens qui disent que c'était le Soleil, ils étaient d'une très grande mauvaise foi, parce qu'avec le Soleil, on n'arrivera jamais à reproduire cette signature plus froide dans la stratosphère et plus chaude dans la troposphère. Et donc, malheureusement, non, le CO2, il est essentiellement actif dans la troposphère, du point de vue radiatif.
Oui, moi, je me posais une autre question, parce que là, vous avez expliqué des phénomènes globaux, à l'échelle globale. Et en fait, j'ai entendu dire que les courants marins comme le Gulf Stream pouvaient très bien varier son cheminement. Et du coup, il peut y avoir des variations climatiques pas du tout uniformes selon les régions terrestres.
Oui, c'est vrai.
En fait,
j'ai travaillé avec ça, j'ai travaillé sur cette question-là à peu près il y a quelques années avec une thésarde. Puis comme c'était un résultat un peu vieux, je l'ai retiré. Mais avant, je le mettais. Oui, vous avez parfaitement raison. Alors, j'ai expliqué un peu ça. Il y a une chose qui est un talon d'Achille dans la circulation atmosphérique, c'est les petites zones de l'océan où on forme de l'eau profonde. Pourquoi ? Parce que pour former de l'eau profonde, il faut de l'eau très froide et très salée. C'est quand elle est très froide et très salée, elle est dense, et quand elle est dense, elle plonge. Et des zones comme ça, il n'y en a pas partout. C'est très rare. Il y en a dans l'Atlantique Nord, il y en a près du Groenland, justement, et il y en a dans l'océan Austral. Et ce que vous dites là, c'est que si jamais on fait fondre le Groenland rapidement, on va amener beaucoup d'eau douce dans ces zones-là, qui sont des zones de plongée d'eau profonde. Qu'est-ce qui va se passer quand on va amener beaucoup d'eau douce ? Eh bien, ça va être moins dense, puisque l'eau douce, elle est peu salée, et on va casser la circulation thermohaline. Et les Heinrich Events dont je vous ai parlé, les événements glaciaires là, que vous voyez, c'est ça. C'est exactement ce qui se passait mais avec la Laurentide. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour l'Europe de l'Ouest, si on casse le Gulf Stream, pour l'Europe de l'Ouest et l'Est des États-Unis, mais surtout l'Europe de l'Ouest, ben, on n'aura plus cet apport de chaleur et on va refroidir par rapport à l'actuel. Mais ce qu'il ne faut pas croire, c'est que dans le monde qui vient, le monde sera chaud, mais nous, on sera tranquille. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on fait des calculs, on voit que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un réchauffement global et un réchauffement, toujours, mais moins prononcé de l'Europe de l'Ouest, parce qu'elle sera tempérée par l'effondrement du Gulf Stream. C'est-à-dire que l'effondrement du Gulf Stream à lui tout seul ne sera pas suffisamment fort en amplitude pour contrecarrer le réchauffement climatique. Tout ce qu'on fera, c'est qu'on se réchauffera moins vite. Mais vous avez raison, j'ai montré essentiellement, parce qu'en trois quarts d'heure, une heure, 4 milliards d'années, si en plus je fais du régional, là c'est foutu. Là. Mais vous avez raison, ça se décline quand même au niveau régional. Et par exemple, un truc très très important que tous les modèles montrent, c'est que tout le bassin méditerranéen va beaucoup beaucoup s'assécher et qu'il y aura beaucoup de problèmes d'eau autour du bassin méditerranéen. Et ça, il y a comme ça des patterns géographiques et régionaux qui sont très robustes, c'est-à-dire qui sont trouvés par tous les modèles dans les simulations climatiques.
Excusez-moi, j'ai avec le micro.
Donc, vous avez parlé beaucoup de l'influence de CO2, mais si, par exemple, le permafrost de Sibérie fond, ça va dégager énormément de méthane.
Ouais,
très juste. À ce moment-là, si le méthane a 25 fois plus fort comme effet de serre que CO2, l'influence de cette partie devient énorme.
Oui, c'est vrai.
Et donc, il faut conserver la température de Sibérie ou dans zone équivalente à la température au moins actuelle.
Ouais. Alors, ça, c'est tout à fait vrai. Il y a deux bombes potentiellement très importantes. Je vais expliquer un tout petit peu. Il y a le permafrost, je vais expliquer. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle des clatrates, qui sont des énormes réservoirs d'hydrate de méthane qui sont à 500 ou 600 mètres et qui peuvent se transformer en gaz. Et là, c'est beaucoup plus fort que les permafrost. Mais pour faire ça, il faudrait vraiment qu'on y aille très fort. Je pense qu'il n'y a pas trop de danger. Mais c'est les deux bombes qu'on a potentiellement. Alors, pour revenir sur la plus importante et la plus prégnante, et celle qu'on voit déjà, je pense que vous avez déjà tous vu des reportages où on voit en Sibérie des zones de permafrost qui ont été construites, où il y avait des maisons, et le permafrost est en train de fondre. Ben, les maisons, elles sont comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe, effectivement? C'est que le permafrost, c'est des zones qui sont gelées toute l'année, des sols gelés, qui contiennent beaucoup de méthane et beaucoup de CO2. Quand ces zones fondent, et ben, le méthane est libéré et il passe directement dans l'atmosphère. Et là, comme je vous l'ai raconté, il est piégé et il est oxydé par le CO2. Donc, il y a un effet court terme qui est très, très fort, et puis il y a un effet long terme qui est moins fort, mais qui est plus long. Et donc, effectivement, déjà maintenant, on voit les effets du réchauffement climatique sur les zones de Sibérie de permafrost. C'est tout à fait, on peut le voir, c'est prégnant. Et il y a des gens qui ont calculé, et maintenant, dans le dernier rapport du GIEC, c'est pris en compte, qui ont calculé combien de CO2, finalement, allait être apporté par la fonte de ce permafrost, puisque le méthane, ça va durer très peu de temps. Eh ben, c'est quand même de l'ordre de 120, au moins 120 parties par million. C'est-à-dire que si on faisait fondre le permafrost, on rajouterait dans l'atmosphère, qui est aujourd'hui de 402, encore 120 ppm de plus au minimum. Et bon, alors on ne va pas fondre le permafrost tout de suite, parce qu'il y a différents types de permafrost. Il y a des permafrost qui n'est qu'en surface, il y a des permafrost qui est carrément tout à fait en profondeur. Donc celui-là mettra plus de temps pour le réchauffer, mais il n'empêche qu'il a déjà commencé à fondre, et donc c'est tout à fait c'est un vrai problème, quoi.
Ils vivaient dans quel genre de climat, les dinosaures? Parce que vous dites chaud, mais ils peuvent vivre dans un climat plutôt équatorial.
Alors, les dinosaures, comme je vous l'ai dit, ils ont vécu entre 250 et 65 millions d'années. Alors, c'est déjà beaucoup plus long que nous, les hommes. Si on remonte jusqu'à Toumaï pour commencer, nous, on vit depuis 7 millions d'années seulement. Et peut-être ce ne sera pas tellement plus long. En tout cas, 7 millions d'années. Et donc, ces 7 millions d'années, on les a toujours vécues dans le froid. D'abord avec une calotte en Antarctique. La calotte antarctique, elle a 34 millions d'années. Et puis, enfin, la calotte du Groenland, qui a 3 millions d'années. Les dinosaures, eux, ils ont commencé à 250, ils ont fini à 65 dans un monde où il y avait beaucoup de CO2. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près en moyenne 6 à 8 fois plus de CO2 que nous en période normale, c'est-à-dire 280 ppm. Il faisait très chaud. Alors, ils n'ont quasiment pas vu de calotte de glace, mais il y a des petits épisodes, où on pense qu'il y a eu des petites calottes de glace qui se sont formées. Mais grosso modo, ils ont vécu dans un monde où il y avait énormément de CO2, où il y avait beaucoup, où il y avait une végétation foisonnante, où les températures des océans étaient assez élevées, où le climat était beaucoup plus uniforme qu'aujourd'hui, beaucoup plus uniforme, c'est-à-dire que c'est un peu comme si les tropiques s'étalaient sur jusqu'à plus ou moins 50 à la place d'être plus ou moins 30. Bon, c'est une image, mais c'est ça. Ils vivaient dans un monde luxuriant, chaud et uniforme, en gros, grosso modo. Et ils ne sont pas morts à cause du climat, les dinosaures, ils sont morts parce qu'un astéroïde leur est tombé sur la tête. Mais sinon, je pense qu'ils auraient eu quelques soucis à s'adapter à un monde qui est devenu froid un peu après leur mort. C'est-à-dire qu'eux, ils ont disparu à 65, et à partir de 40 millions d'années, on bascule vraiment vers le froid.
Est-ce qu'on va avoir le climat des dinosaures ? Est-ce qu'on va avoir le climat des dinosaures ?
Ben, en tout cas, on peut avoir, si on ça dépend un peu des scénarios, si vous voulez. Mais si on monte en CO2 à des valeurs de l'ordre de 800, 1000 ppm, 1200 ppm, on ne va pas avoir le climat du dinosaure parce que l'histoire ne se répète jamais deux fois. Les dinosaures sont dans une configuration tectonique très différente. Ah ouais, d'ailleurs, à combien... Quand est-ce que l'Antarctique s'est mis en position polaire ? Vous l'avez regardé ou pas ? Ouais, c'est à peu près 100, ouais. Et pourtant, l'Antarctique, elle s'englace qu'à 34 millions d'années. Donc, en fait, c'est bizarre, ça. Ça, c'est lié au fait que le CO2 n'arrête pas de baisser et qu'à un moment donné, il passe un seuil et que l'Antarctique s'englace. Mais donc, il y a 100 millions d'années, il y avait des forêts sur l'Antarctique. Donc, c'était un contexte géologique quand même assez différent. Donc, on aura peut-être un climat beaucoup plus chaud, beaucoup plus comparable à celui des dinosaures. Mais par exemple, le fait de ne pas avoir de continent en position polaire, ce qui est le cas au Jurassique et au Trias, ça change beaucoup la donne. Alors que nous, on a un continent en position polaire, qui est l'Antarctique. Et après, le Groenland n'est pas en position polaire, mais il n'est pas loin. Et tandis que si vous n'avez pas de continent en position polaire, ben là, il n'y a pas de possibilité de calotte de glace, vu qu'elle n'a rien pour s'accrocher. Et les dinosaures, ils ont eu beaucoup ça. Donc, du point de vue géologique, on ne sera jamais dans le climat des dinosaures. Mais par contre, du point de vue CO2, c'est sûr qu'on s'en rapproche, à grands pas.
On a parlé beaucoup du CO2, et puis il y a le méthane, CH4. Si on avait une action rapide et drastique sur le CH4, qui a une durée de vie un petit peu plus courte, est-ce qu'on n'aurait pas une marge, un levier, un effet sensible, rapide, pour aider à toutes ces négociations, pour compenser le fait que ces négociations aillent pas assez vite ? Dit autrement, le CH4 a un grand coup de bambou. Est-ce qu'on aura quelque chose qui serait sensible ?
Ouais, ben si. Enfin bon, le problème c'est que le CH4, il est biologique. Donc le CH4, c'est les rizières, c'est l'élevage, les vaches, c'est tout ce genre de choses. Et un grand coup de bambou, ça veut dire par exemple que, par exemple, on mange beaucoup moins de viande. Dans ce cas-là, on a peut-être moins besoin de. Donc ça, c'est possible. Après, pour les rizières, il y a peut-être aussi des progrès techniques pour capter le méthane, je ne sais pas. Mais c'est sûr que le méthane étant 25 fois plus puissant que le CO2, l'effort que vous faites sur le même effort que vous faites sur le méthane ou sur le CO2, il vaut mieux le faire sur le méthane, puisqu'il est extrêmement, extrêmement nocif à court terme. Bon, mais c'est sûr. Et c'est sûr aussi que si vous regardez, l'augmentation du méthane dans l'atmosphère, c'est quand même énorme. Le CO2, on n'a pas doublé, alors que le méthane, on a doublé. Bon, mais le méthane est parti de beaucoup, beaucoup plus bas. Mais oui, ça ne réglera pas tout, mais ça peut faire partie de la panoplie des choses qu'il faut faire pour réduire le méthane. Oui, c'est sûr. Surtout qu'il y a plein de fuites aussi de méthaniers. Enfin, il y a sans doute aussi des choses à faire du point de vue industriel pour essayer de moins perdre de méthane, ça c'est sûr aussi. Mais oui, vous avez raison, c'est un élément assez important.
Pardon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le petit âge glaciaire qui s'est produit ces dernières années, enfin, disons de 1350 à peu près à 1850?
Alors en fait, si on regarde les 1000 dernières années, bon, j'en ai pas parlé effectivement, il y a deux choses, bon, c'est rien, c'est des fluctuations climatiques vraiment par rapport à ce qu'on est en train de faire. Hein. Parce qu'on appelle ça le petit âge glaciaire, parfois les gens pensent que c'est un gros truc, mais c'est rien. Alors, il y a deux fluctuations importantes, il y a l'optimum climatique médiéval, en fait c'est, ça correspond à une phase chaude au Moyen-Âge, qui va à peu près jusqu'à 1200, de 800 à 1200, qui correspond au moment où les Vikings ont eu leur apogée et qui correspond aussi au Groenland, pas sans glace, parce que ça n'a jamais existé, mais au Groenland plus vert. Et bon, ça, c'était un peu un argument publicitaire parce qu'en fait, il voulait amener des gens au Groenland, donc il faisait croire, mais en réalité, au Groenland, il y avait quand même une grosse calotte de glace, mais il faisait plus chaud, c'est vrai. Donc il y avait l'optimum climatique médiéval, et puis après cet optimum climatique médiéval, on a eu l'inverse, on a eu ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. Alors le petit âge glaciaire, pendant très longtemps, les gens l'ont associé au fait que, moi je vous ai parlé, deux choses qu'il ne faut pas confondre d'ailleurs, moi je vous ai parlé de l'augmentation de la luminosité solaire sur des milliards d'années, mais le soleil, qui est quand même quelque chose de compliqué, il a aussi des variations à des échelles de temps beaucoup plus courtes. En particulier, il a un cycle de 11 ans, puis d'autres cycles. Et il a un minimum de Maunder, et ça, on peut le voir, parce que c'est quelque chose qui est directement proportionnel aux tâches solaires. Plus il y a de tâches solaires, plus le soleil est actif. Et donc, en fait, on a longtemps cru que le fait qu'on avait au minimum de Maunder un soleil moins actif était lié au fait que on avait moins d'insolation et donc un petit âge glaciaire pendant quelques centaines d'années. Bon, il semble, quand on fait les calculs, que ce n'est pas très clair. Il y a ce minimum de Maunder qui correspond à un minimum, effectivement, d'insolation. Et il y a ce petit âge glaciaire qui sont assez corrélés. Mais bon, je crois qu'il y a beaucoup de discussions là-dessus parce qu'il y a un problème de durée, un problème de... Enfin, rien n'est absolument clair. Mais il y a sans doute, si vous voulez avoir une explication, je pense que la plus plausible aujourd'hui, ça reste quand même les variations un peu ténues, c'est-à-dire faibles, de variations solaires, d'intensité solaire, avec des échelles de temps très courtes, qui auraient pu induire un refroidissement qu'on appelle donc le petit âge glaciaire.
Pas de questions ? Excusez-moi.
Bonsoir, j'aurais aimé savoir, vous avez montré que quand la banquise s'effondrait, ça avait des conséquences sur les calottes glaciaires. Par exemple, quand on augmente le CO2, ça augmente la température, et donc ça évapore aussi de l'eau. Et l'eau, c'est aussi un gaz à effet de serre. Est-ce que tous ces phénomènes ne peuvent pas conduire à des réactions en chaîne, et est-ce que c'est pris en compte à l'heure actuelle dans vos modélisations ou pas ?
Ben, ouais, bien sûr que c'est pris en compte. On ne parle pas beaucoup de l'eau, parce que de l'eau, il y en a plein. De la vapeur d'eau, il y en a plein. Et donc, ce qui se passe, et c'est pris en compte dans nos modèles, ce qui se passe, mais là où vous avez raison, c'est que quand on chauffe, évidemment, on a plus de vapeur d'eau. Il y a une relation qui s'appelle la relation de Clausius-Clapeyron, qui fait que l'atmosphère peut contenir d'autant plus de vapeur d'eau qu'elle est chaude. Hein, donc, plus on chauffe, plus l'atmosphère peut contenir de la vapeur d'eau. Et du coup... C'est ce qu'on appelle une rétroaction positive, puisque l'eau est un gaz à effet de serre, même si c'est un gaz à effet de serre beaucoup moins fort que le CO2 et le CH4. La grosse différence, c'est que le CO2 et le CH4 sont des gaz à effet de serre qu'on appelle traces, c'est-à-dire qu'on les compte en partie par million ou en partie par trillion, alors que de l'eau, il y en a plein, de la vapeur d'eau, il y en a plein. Donc on va avoir, effectivement, quand on chauffe un tout petit peu plus de vapeur d'eau, mais pas suffisamment pour enclencher un processus d'avalanche. Et bien sûr qu'on en tient compte. Et... j'avais une autre idée, mais je ne m'en souviens plus. Ok, bah, je crois que j'ai répondu.
Vous avez dit que grâce à l'érosion et aux pluies, c'est ce qui permettait de piéger le CO2. Alors, est-ce qu'à l'avenir, il y aura plus de pluie, moins de pluie avec ce réchauffement climatique ?
Alors, en général, pour la raison juste que je viens de dire, dans les climats plus chauds, il fait plus humide. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a un truc que vous auriez pu m'objecter. Après, je vous réponds. Vous auriez pu m'objecter, c'est que comme il fait plus chaud, justement, et qu'il y a plus de vapeur d'eau, il y a plus de vapeur d'eau qui va aller vers l'Antarctique aussi, forcément. Et donc, l'Antarctique ne sera plus un si grand désert que ça, puisqu'il y aura plus d'eau qui va lui arriver. Et comme il y a plus d'eau qui lui arrive, il va grossir. Il ne va pas diminuer. Alors, comme il fait plus chaud, il va aussi perdre de la masse. Mais en fait, ce qui se passe pour l'Antarctique de l'Est, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Parce qu'effectivement, comme il fait plus chaud, il y a plus de vapeur d'eau. Comme il y a plus de vapeur d'eau, il y a plus d'accumulation. Et comme l'Antarctique est très loin et en position polaire, avant qu'il fasse suffisamment chaud pour que ça fonde, il va se passer du temps. Donc il est possible que l'Antarctique gonfle d'abord et puis fonde. C'est une première chose. Et pour répondre à votre question, donc dans un climat chaud, il va faire plus humide. Quand il va faire plus humide, il va y avoir plus d'érosion. Vous avez parfaitement raison. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le CO2 va diminuer. Et ça, c'est une rétroaction négative. C'est-à-dire qu'on a un effet qui va dans un sens, il fait plus chaud, plus de précipitations, plus d'érosion, le CO2 rebaisse. Et donc, c'est un feedback négatif. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'homme, il agit à quelques années, et l'érosion des silicates, elle agit sur des milliers d'années. C'est-à-dire que le temps que l'érosion des silicates réussisse péniblement à vous retirer du CO2, nous, on en aura mis 100 fois, 1000 fois plus. Donc, ce n'est pas deux phénomènes qui marchent à la même vitesse. Nous, on est beaucoup plus rapide. On est vraiment... L'érosion silicatée, c'est celle qui aura le dernier mot, mais dans longtemps. Donc, en fait, elle ne va pas, même si le processus que vous dites est tout à fait juste, elle ne va pas être capable d'éliminer du CO2. Donc, elle, c'est plutôt un puits. Et nous, on est une source. Nous, on est une source qui est 1000 fois plus rapide que l'érosion silicatée. Quand je dis 1000 fois, c'est peut-être 10 000 ou 100 000 fois. Et donc, l'érosion silicatée, même si elle essaye, eh ben, elle va mettre du temps. À la fin, elle va y arriver. Mais elle va mettre des milliers, des dizaines de milliers d'années à extraire le CO2 qu'on aura mis nous-mêmes.
Justement, on a évoqué la COP21. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans les couloirs, effectivement, de la COP21. Est-ce que vous pensez que les textes qui sont en train de s'écrire sont de nature à donner de l'espoir?
Ouais, moi, je pense que, si vous voulez, d'après ce que j'entends, on parlait de 2 degrés, maintenant on parle de 1,5 degré, alors que les pays riches ont déjà mangé 0,8 degré. Donc je suis assez... Enfin, je trouve ça très bien, parce que ça veut dire que sur les 195 pays, il y a beaucoup de pays qui sont sensibles au fait qu'un certain nombre de pays vont disparaître avec 2 degrés. Donc il y a une espèce de solidarité là qui est sans doute bien, mais qui n'est pas du tout fondée sur le plan scientifique. Ce sera très difficile de le faire. Et je me demande si finalement, en disant 1,5 degré pour faire plaisir, alors qu'on ne peut pas le faire, ou que c'est très difficile, ou que ça correspond vraiment à des politiques drastiques, des politiques de changement, transition énergétique énorme, c'est bon, je suis un peu dubitatif là-dessus. Mais ceci dit, moi, ce que je pense profondément, c'est qu'il va y avoir un accord, ce ne sera pas une catastrophe, ce ne sera pas complètement négatif, ce ne sera pas non plus complètement positif, ce sera juste une étape importante, je pense. Et après, moi, je pense que, si vous voulez, s'il n'y a pas des mécanismes très contraignants pour arriver à 1,5 degré, alors que sur des promesses seulement, on est autour de 3 degrés, s'il n'y a pas de mécanismes très contraignants, et bien, à ce moment-là, il faudra que les citoyens de tous les mondes, enfin, prennent en charge ça. Parce que la seule façon de faire, à mon avis, c'est que les citoyens fassent pression sur les gouvernements pour... prendre part au processus. C'est-à-dire que, pour moi, le processus, il a plusieurs jambes, il a une tête. Pour moi, le processus, il a une tête, c'est... Je ne dis pas ça, ce n'est pas par manque d'humilité, mais il a une tête, c'est les scientifiques. Les scientifiques doivent dire qu'est-ce qui risque de se passer, doivent éclairer les politiques. Donc ça, on le fait, je crois. Après, les politiques doivent agir. Mais si on considère que... Et on dit que ouais, c'est politique, c'est des charlots, ils ne font rien de bien, ils ont les éléments, ils ne décident pas... Ça, c'est un discours insupportable, parce que, en fait, le changement, la transition énergétique, elle est pour nos enfants, nos petits-enfants. Il faut que les citoyens prennent en charge, dans leur vie individuelle et dans leur pression auprès des politiques, ce cheminement, parce que ça ne va pas, à mon avis, se faire tout seul. Donc voilà, la COP, c'est très important, c'est un moment très important de ce combat, mais ce n'est pas le seul. Et je pense que des lieux comme ici, par exemple, des lieux où les gens peuvent... Enfin, c'est surtout important pour les jeunes. Enfin, je ne dis pas que... Mais c'est surtout parce que c'est eux qui vont devoir se colter à ça. Mais des lieux comme ici, où on donne aux gens la capacité d'écouter moi ou un autre pour pouvoir réfléchir aux problèmes de climat, poser des questions, se rendre compte, se faire sa propre opinion sur des problèmes qui vont devenir vraiment très importants, très prégnants les 50 prochaines années, ben c'est très important, quoi.
J'ai encore une question dans la même zone. En fin de compte, la question que je me pose, parce que bon, au niveau du climat, les scientifiques font des modélisations. Je me dis, mais au niveau politique, au niveau économique, qui fait de la modélisation dans le même ordre d'idées? Et d'une manière aussi précise. Enfin, bon, je me pose la question. En tout cas, c'est pas visible. C'est pas très visible.
Alors, ouais, mais c'est pas visible. Mais pourtant, donc dans le rapport que rendent les scientifiques, il y a 3 groupes. Moi, je fais partie du groupe 1, qui est le climat, vraiment le climat, comme je vous l'ai montré. Après, il y a des gens qui font partie du groupe 2, qui s'intéressent plutôt à l'adaptation. Et puis, il y a des gens qui s'intéressent à l'atténuation. Et donc, il y a aussi des économistes qui font ce travail, un travail quantifié, et les rapports des working des groupes 2 et 3, c'est plus de l'économie et c'est plus de l'économie que du climat. C'est en fait décliner ce qu'on peut faire pour atténuer et pour adapter au changement climatique. Mais après, si vous voulez, dès qu'on quitte un peu le domaine purement scientifique et qu'on est dans le domaine, je dirais, économique, il y a tous les spectres. C'est-à-dire, il y a des gens qui considèrent que il faut croire en le progrès, qu'on peut y aller, que de toute façon, on inventera quelque chose. C'est pas grave. On inventera quelque chose. On y va. Il y a ces gens-là. Et puis, il y a des gens qui sont complètement à l'extrême opposé, qui sont pour la décroissance. Et donc, là, il y a de la marge, quoi. Je veux dire, après, ça, c'est plein de débats qui m'échappent complètement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Enfin, en tout cas, ce que je pense qui est sûr, c'est que ça fait à peu près un moment qu'on sait que la Terre est finie, qu'il faut réfléchir en termes de préservation et plus de dilapidation, comme on a fait depuis Christophe Colomb et même avant, des richesses en pensant qu'on peut taper dans le truc, il en restera toujours. Ça, c'est pas possible. Et je pense que, vu la vitesse à laquelle on change, le raisonnement qui consiste à dire « Ouais, mais le progrès nous sauvera », c'est pas possible. Parce que on peut pas espérer, dilapider et espérer qu'on s'en sortira par autre chose. Donc moi, je pense que le plus raisonnable, c'est vraiment de changer, de faire une transition énergétique pour atténuer un maximum le taux de CO2 qu'on émet. Et particulièrement nous, pays industrialisés, qui avons déjà pris une énorme part du gâteau.
Oui, je pense que c'est 3 milliards de personnes dans les pays industrialisés qui polluent le plus. Les autres, c'est neutre, quoi, je pense, au niveau des CO2. On est combien à peu près à polluer, enfin, sur la planète, dans les pays industriels, à faire augmenter le CO2? Le pourcentage, je ne sais pas exactement, mais...
Ben, ça dépend comment vous comptez, mais si vous comptez que l'Europe et les États-Unis, vous êtes...
Et la Chine, bien sûr.
Alors voilà, c'est ça. Et si vous comptez la Chine, c'est un peu différent. Mais si vous comptez l'Europe et les États-Unis, vous êtes à peu près à 1 milliard. Si vous comptez la Chine, à 2 milliards. Je pense qu'effectivement, le problème, un peu, c'est que ces pays-là ont déjà pas mal contribué à modifier notre environnement. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et donc, qu'ils sont comptables d'une transition énergétique où ils permettent aux pays qui... S'il y a quand même 1 milliard d'hommes qui n'ont même pas accès à rien, quoi. Donc, eux, ils doivent s'en sortir. Ils doivent pouvoir s'en sortir aussi. Ils doivent pouvoir avoir accès à l'électricité, à l'eau. Et donc, il y a une redistribution, à mon avis, qui est nécessaire. Et dans cette redistribution, nos pays, à nous, ont un rôle très important. Et je ne sais pas, parce que la Chine, c'est assez contradictoire, mais il y a à la fois des épisodes de pollution, comme vous avez vu là, très important vraiment, à Pékin. Moi, j'ai déjà été plusieurs fois en Chine, c'est vraiment considérable. Et une politique à long terme de réduction, enfin de redistribution d'énergie, de diversification, qui elle est plutôt favorable à la diminution du CO2. Donc c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, mais la direction, à mon avis, elle doit aller plutôt, si vous voulez, vers une diminution des émissions que vers des gens qui vous disent « Bon, c'est pas grave, on va fertiliser les océans avec du fer ou on va mettre des poussières dans la stratosphère. » Et ça peut être grave. On a montré pour l'instant, les scientifiques sont toujours associés à ce type d'élucubration de façon à montrer que ce faisant, on fait d'autres choses aussi, et en particulier le fait de vouloir faire produire plus des zones océaniques qui sont limitées en fer, en les fertilisant en fer, ça a des impacts énormes sur plein d'autres facteurs qui font que c'est jouer avec le feu. C'est beaucoup plus simple de diminuer les émissions que de jouer avec notre planète en essayant de contrecarrer les effets qu'on a nous-mêmes produits.
Justement, j'ai entendu encore assez récemment, j'ai entendu parler de tout ce qui se faisait dans les guerres mondiales de modification du climat de manière artificielle. Est-ce que c'est encore dans les négociations d'aujourd'hui de vouloir modifier, justement, mettre toutes ces poussières dans l'atmosphère ou provoquer des nuages sur des grandes surfaces pour diminuer l'ensoleillement, etc. Est-ce que tout ça, c'est des propositions sérieuses? Est-ce qu'il y a des États qui s'engagent vers ce type de propositions pour pouvoir continuer, en fait, à polluer sans vergogne?
Bah, moi, je ne peux pas répondre à cette question, mais il y a un truc qui est vraiment marrant et un peu paradoxal, peut-être que vous avez entendu parler, c'est qu'il y a des universitaires américains dans les années 70-80 qui avaient publié des papiers sur l'hiver nucléaire, où ils montraient que s'il y avait une conflagration nucléaire, même régionale, elle aurait un effet climatique planétaire. Et donc, que même un pays qui estimait pouvoir s'en tirer parce qu'il avait l'arme nucléaire, s'il s'en servait qu'il y avait vraiment un conflit nucléaire, ça pouvait très rapidement dégénérer en dérèglement climatique mondial. C'est ce qu'on appelait l'hiver nucléaire. Et donc ça c'était plutôt bien. Et ça c'est plutôt une contribution bonne au fait que, ça prouvait que c'était vraiment dangereux. Mais vous n'empêcherez pas des militaires de n'importe quel pays d'avoir des idées. Donc ça, je ne sais pas, moi, je ne peux pas vous dire ce à quoi ils réfléchissent, aux guerres bactériologiques, aux guerres climatiques. Ce que je peux vous dire, qui nous concerne plus et ce sur quoi on a accès, c'est quand des gens proposent des solutions pour contrecarrer l'effet de serre de type bio-ingénierie, les scientifiques sont là, ils sont, à mon avis, assez vigilants, parce que, justement, pour démontrer que c'est extrêmement dangereux. Parce que si on n'est pas là et qu'on dit ah « non, ça ne nous intéresse pas, ces trucs-là », eh ben voilà. Alors que si on est là et qu'on montre que c'est très dangereux, bon, l'idée est quand même abandonnée. Donc, c'est, en tout cas, pour les deux idées dont je vous ai parlé, l'ensemencement de fer et des poussières dans la stratosphère, ça, c'est comme ça que ça a marché. Et maintenant, s'il y a d'autres idées qui fleurissent de ce type-là, je pense qu'il faudra les démonter quand c'est possible, parce que, en fait, la Terre, c'est quelque chose de très compliqué, avec beaucoup de rétroactions, et faire de l'ingénierie de notre propre planète... c'est un côté docteur Follamour qui peut être grave, quoi.
Oui, je voudrais savoir si la communauté scientifique est unanime par rapport au scénario que vous avez présenté, ou s'il y a encore des divergences, et si oui, sur quel point elles portent.
Alors, c'est bien votre question, ça me permet de dire quelque chose que je pense profondément, c'est-à-dire que depuis 20 ans, à chaque fois qu'une radio, qu'une chaîne de télé invitait un climatologue, elle invitait un sceptique. C'était un ring de boxe. Au lieu de faire comprendre plein de choses aux gens, les journalistes, ils mettaient en scène un ring de boxe. Et donc, vous avez eu des moments grandioses, où Allègre réussissait à mettre KO Jouzel, alors que c'est Jouzel qui avait raison, mais il n'avait pas la verve. Et donc, c'était très triste, cette période-là, et j'espère que ça va finir. Et parce qu'en fait, des sceptiques, il n'y en a plus beaucoup en France, en tout cas. Aux États-Unis, c'est différent, mais en France, c'est comme ça. Et 99,9% des climatologues sont convaincus qu'il y aura un réchauffement climatique. Ils sont tous aussi convaincus que, vu les scénarios qu'on a aujourd'hui, les réchauffements auxquels on arrive, que je vous ai montré en fonction des scénarios, sont relativement robustes. La façon dont ça va se décliner au niveau régional à petite échelle, c'est-à-dire à l'échelle par exemple d'une région en France, il peut y avoir quelques incertitudes. Ça c'est sûr et certain parce que, par exemple, pour les températures, on est assez robuste, mais pour les précipitations, alors là, il y a quand même pas mal d'incertitudes. Donc, si vous voulez, il y a quand même un énorme consensus. Moi, je dirais que la climatologie, à cause de la pression qu'on a, c'est à cause des rapports du GIEC qui ont commencé par dire que peut-être c'était l'homme en 88, mais on n'était pas sûr. Ah, maintenant, on dit que c'est absolument l'homme, on est très sûr. Ça a doucement évolué et 99% des climatologues ont suivi cette évolution à peu près. Alors, il y a encore des discussions. Vous me demandez sur quoi il y a des discussions. D'abord, les modèles, ils ne sont pas parfaits. Par exemple, les choses qu'il y a dans les modèles qui font que les modèles ne disent pas la même chose tous, c'est les nuages. Vous savez que les nuages, soit ils sont bas et cotonneux, et ils renvoient la lumière du soleil, donc en fait ils protègent la Terre, ils refroidissent la Terre, soit ils sont filandreux et dans la haute atmosphère, Dans ce cas-là, ils ont plutôt un effet de serre. Donc soit ils réchauffent, soit ils refroidissent. Et donc ça, c'est quelque chose qui est difficile, parce que la microphysique des nuages, c'est quelques millimètres, et la taille des mailles que nous, on utilise, c'est des kilomètres. Donc on est obligé de faire des relations déduites des satellites, on est obligé de faire des hypothèses. Donc il y a des hypothèses dans les modèles, qui sont en général validées grâce aux satellites, mais il y a quand même des incertitudes, ça c'est sûr. Et par exemple, une chose sur laquelle il y a des grosses discussions, c'est sur la vitesse à laquelle les calottes de glace vont fondre. Les deux grosses calottes de glace qui sont fragiles, c'est le Groenland et l'Antarctique de l'Ouest. L'Antarctique de l'Ouest, parce qu'il y a deux grosses plateformes de glace qui s'appellent la Ronne et la Ross, qui sont en Antarctique, qui peuvent fondre et qui peuvent avoir un effet accélérateur sur la fonte de l'Antarctique de l'Ouest. Donc ces deux calottes-là sont fragiles, et la vitesse à laquelle elles vont fondre, il y a encore des gros débats, ce n'est pas du tout clair. Et c'est pour ça que sur le niveau marin, vous avez vu qu'à la fin du siècle, l'échelle c'est 50 cm ou 1 mètre, et moi je pense que ça peut être plus, parce que ce n'est pas si linéaire que ça. Donc il y a encore beaucoup de débats, je dirais, sur l'état de la cryosphère à la fin du siècle. C'est un des sujets sur lesquels il y a pas mal de débats. Des débats, il y en a aussi sur quelque chose que je ne vous ai pas du tout montré, qui est vachement bien. C'est qu'il y a 20 ans, quand j'ai commencé, les gens disaient, ouais, les extrêmes climatiques, est-ce qu'il y en a plus qu'avant, moins qu'avant? C'est pas sûr, on ne sait pas. Maintenant, il semble qu'on sait qu'il y en aura plus qu'avant. Et pourquoi c'est important, ça? C'est parce que les sociétés d'assurance, si vous voulez, tant que ce n'est pas sûr, elles n'ont pas intérêt à investir. Mais si elles sont sûres qu'elles vont perdre de l'argent parce qu'il y aura plus d'événements extrêmes, alors c'est intéressant pour elles d'investir pour que ça ne se produise pas. Et effectivement, on voit que les sociétés d'assurance et de réassurance investissent beaucoup plus sur la recherche climatique qu'il y a quelques années. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il y a des incertitudes, à quel point les événements extrêmes se multiplieront. Mais la tendance, c'est qu'il y en aura plus.
Merci.
Vous avez le droit à 863 questions, après c'est fini.
Oui, pour en revenir aux climato-sceptiques, leurs arguments s'orientent sur deux axes. Un, ils disent que l'émission de gaz carbonique anthropique n'est qu'une petite partie du gaz carbonique émis par la Terre, je ne sais pas, un dixième. Et deux, ils disent qu'effectivement, il y a une corrélation entre l'augmentation de gaz carbonique dans l'atmosphère à partir du début de l'ère industrielle jusqu'aux années 80, mais que depuis les années 80, la température moyenne stagne. Ça fait à peu près 15 ans que la température moyenne est la même sur Terre, alors que la concentration en gaz carbonique, du fait de la couverture de centrales à charbon en Chine, en Inde, etc., est passée de 250 parties par million à 400 parties par million. Donc, selon eux, il n'y aurait pas une véritable corrélation entre l'émission de gaz carbonique anthropique et la variation de température. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Alors, il y a plusieurs choses. Vous avez raison. Il y a ces deux arguments-là. Les sceptiques, il y en a différentes sortes. Il y en a qui sont naïfs, il y en a qui sont payés par les lobbies, et puis il y en a qui sont juste curieux. Donc, il y a des gens tout à fait respectables et des gens moins respectables. Sur les arguments scientifiques, pendant longtemps, très longtemps, ils ont prétendu que ce n'était pas l'homme qui était responsable du réchauffement. Bon, ça, maintenant, c'est une erreur qui a été démontrée, qu'il n'y a pas de souci. La seule façon de montrer le réchauffement climatique qui a eu lieu depuis 1850, c'est le CO2, et c'est l'homme. Il n'y a pas de... Plus personne ne peut, en gros, contester ça. Alors, par contre, sur la déclinaison entre la corrélation, qui serait, je pense, vous voulez dire, linéaire, entre l'augmentation du CO2 et l'augmentation de la température globale moyenne, il y a quelques arguments. 2014 a été l'année la plus chaude depuis qu'il y a des mesures, et 2015 sera sans doute pire que 2014. Et les 10 années les plus chaudes sont dans les années les plus récentes. Donc évidemment, il y a un réchauffement climatique qui est non négligeable. Par contre, là, vous avez raison, c'est que le réchauffement climatique n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir s'attendre à voir la température à la surface augmenter avec le CO2, à peu près pareil, alors que ce n'est pas ce qu'on voit. Et vous avez raison, il y a eu une espèce de plateau depuis une dizaine d'années où on voit que les températures continentales stagnent alors que le CO2 continue d'augmenter. Ça, c'est vrai, mais les températures de subsurface océanique, elles continuent d'augmenter. Et donc, l'énergie supplémentaire que donne le CO2 sur Terre, à la surface de la Terre, elle va se stocker de façon différente et pas forcément, à mon avis, et à l'avis d'autres personnes, linéaire. C'est-à-dire qu'on va peut-être aussi chauffer l'océan de subsurface pendant un certain temps, et moins peut-être les surfaces continentales. Il y a des effets qui peuvent être aussi régionaux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les grandes tendances, c'est quand même ça. C'est quand même que cette année, je pense que ce sera peut-être l'année la plus chaude. Et quand est-ce que c'était l'année la plus chaude avant? C'était l'année dernière. Donc oui, évidemment, on est en train de changer le climat, mais il n'y a pas, vous avez raison, de corrélation mécaniste et juste linéaire entre l'augmentation du CO2 et l'augmentation des températures. Voilà, ça c'est vrai. C'est plus compliqué que ça, c'est vrai. Mais il n'y a pas de très... Si vous voulez, le problème des sceptiques, c'est que... Enfin, moi, je n'ai pas de problème avec les sceptiques. Le problème que j'ai avec certains sceptiques, c'est un livre que je vous conseille de lire, qui s'appelle « Les marchands de doute » d'une universitaire américaine qui s'appelle Naomi Oreskes. Elle montre dans ce livre comment des lobbies industriels, sur l'amiante, hein, sur le tabac, sur le climat aussi, comment ils distillent le doute. C'est-à-dire, ils disent « Ah, les scientifiques vous disent ça, mais il y en a d'autres qui disent ça aussi, donc finalement, on ne sait pas, et comme on ne sait pas, on ne fait rien. » Et pendant 30 ans, comme ça, on ne fait rien, les gens meurent, et les lobbies ont gagné des milliards. Donc, sur le climat, il ne faut pas se leurrer, il y a ça aussi. Il y a aussi des gens tout à fait honnêtes, mais il y a aussi ça. Le fait qu'on ne va rien faire, parce qu'il y a des lobbies qui sont très intéressés à ce qu'on ne fasse rien, qu'on ne fasse pas de transition énergétique. On ne va rien faire parce qu'on ne sait pas, on n'est pas sûr. Alors que 99,9%, je vous l'ai dit, des climatologues, des gens qui savent, qui sont experts, disent ce qui va se passer. Donc, il n'y a pas de doute sur le climat. Et si vous lisez ce livre, vous allez voir, ils sont vraiment très forts. Comment ils font? Comment finalement ils arrivent à déstabiliser l'opinion publique? C'est pour ça que moi, je suis très vigilant quand même à trier parmi les sceptiques. Il y en a qui sont tout à fait bien. Et je pense que c'est d'ailleurs très bien qu'il y ait des gens qui critiquent, qui nous critiquent, parce que c'est comme ça qu'on avance. Mais il y en a qui sont motivés par d'autres idées.
Bon, avec votre permission, on va laisser Gilles se reposer du climat. Juste un truc, puisqu'il vous a parlé de l'apéro, je vous rappelle qu'une des plus grandes marques de champagne vient d'acheter 190 hectares en Cornouailles. Donc je vous rappelle où est le champagne, où est la Cornouaille, donc vous imaginez ça. Récemment, le Bureau national interprofessionnel du Cognac vient d'embaucher une ingénieure climat. Donc on peut imaginer en quoi ça consiste. Et puis si ça vous intéresse, dans l'exposition de l'Espace Mendès France, il y a un panneau sur la climato-ingénierie et toute la science-fiction et la science et la techno-fiction possible et imaginable qui sort des cartons des ingénieurs et des grands groupes industriels, essentiellement nord-américains d'ailleurs, financés par les groupes pétroliers. Donc vous allez revoir tout ce qu'on a pu voir dans les années 50 et 60 d'ailleurs, hein, et pas que les particules, voilà, dans l'atmosphère. Donc, et puis le dernier point, simplement pour tout le monde, Gilles, merci de cette clarté, de cette pédagogie par rapport au climat. On va attendre les résultats de demain après-midi sans trop à la fois d'illusions, mais avec un peu d'espoir pour la suite. Et puis, si vous voulez, hein, l'exposition est finie début février. Vous êtes les bienvenus, elle est gratuite, donc pas de souci. Donc merci à Gilles Rammstein d'avoir été parmi nous.